Bonjour Céline Dacosta, vous voulez que je vous siffle quelque chose
pour bien commencer la journée? Avec plaisir, oui. Bon. Vous savez bien que j'adore.
D'accord, je vous laisserai pour la pub. Et il y en a qui sifflent bien en tout cas. Et
oui, oui.
Ça fait plus de 40 ans qu'ils sifflent.
Et nous sifflotte la météo chaque matin.
Voilà. Laurent Cabrol, bonjour mon cher Laurent.
Bonjour à tous.
Les gens
bonjour
se réveillent en sifflant grâce à Mathieu Noël. Vous vous rendez compte?
Oui. Et ben on peut siffler, donc il pleut bergère pour certains d'entre nous. La pluie est là dans le Béarn, le Midi-Pyrénées, la vallée de la Garonne, le Languedoc-Roussillon. Attention, les pluies seront assez fortes, notamment dans la région de Toulouse. Elles arrivent en ce moment et elles seront parfois assez violentes. De fortes pluies à prévoir aussi avec des orages cet après-midi sur l'Aveyron, le Lot, le Limousin et ensuite sur un axe qui ira de l'Orléanais à la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, l'Alsace même sera concernée, comme la Franche-Comté et sur les Alpes. Vous l'avez compris, beaucoup de régions seront touchées par une petite zone, enfin, qui est, elle est partie toute petite du côté de l'Espagne, et puis elle grossit au fur et à mesure qu'elle rentre sur la France. Donc cette zone de pluie sera là, et notamment sur les régions que je viens de citer. En Manche, des éclaircies. Sur Paris, belles éclaircies, c'est pas mal Paris. Les averses pour ce soir, sur la capitale.
Bon, ça va aller.
Voilà, et puis, les températures sont en baisse, 17 à Toulouse et Albi. Céline vous en a parlé tout à l'heure, Albi et Toulouse, on perd 10 degrés dans la journée.
C'est beaucoup.
Ouais.
Ça vous fait rire. Non, rien, rien. Je ne sais pas pourquoi ça fait rire.
18 à Caen et Bayonne.
C'est 19, beaucoup, 10 degrés.
Oui, c'est beaucoup. 19 à 10, 20 à Bordeaux, 22 à Nantes, 23 à Verdun, 24 à Paris et 28 à Avignon.
J'entends siffler le train des nuages qui arrive tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol. Je dis à nos auditeurs qui peuvent encore se connecter sur internet, sur europe1.fr pour voir la vidéo de ce qui se passe dans la régie. Vous allez découvrir une Hélène Zélani absolument charmante ce matin dans sa robe rouge.
Mais comme chaque matin.
Je n'ai pas d'autres mots. Merci. À tout à l'heure.
Le prochain point météo, ce sera juste avant le journal de 7h30.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 24 mai. Roland Garros démarre dimanche. À 7h45, je reçois Richard Gasquet. Le Français revient après 6 mois d'absence. Europe 1, radio partenaire et radio officielle du tournoi, qu'on vous fera vivre tous les jours sur notre antenne avec nos journalistes et notre consultant, le grand champion Cédric Pioline. La tempête au Paris Saint-Germain, son président Nasser El Raïfi, mis en examen pour corruption active. Il est visé par l'enquête sur la candidature du Qatar au Mondiaux d'athlétisme. On y revient dès le journal de 7h avec Hélène Zélani. Le procès France Télécom, premier face-à-face, tendu entre les victimes et les prévenus. Les témoins ont raconté leur descente aux enfers, compte rendu d'audience dans le journal de 8h. Dernière ligne droite avant les élections européennes de dimanche, tous les partis en meeting hier soir. Reportage à suivre dans ce 7-9. À 7h20, on va terminer notre tour d'Europe quotidien par la Grèce. Comment se porte le pays 8 ans après le déclenchement d'une crise compliquée et difficile pour l'ensemble de la société? Dossier complet dans Europe 1, va plus loin. Ça, c'est le programme. On est ensemble jusqu'à 9h. J'espère que vous êtes bien réveillés. On vous accompagne. C'est parti.
Merci d'avoir choisi Europe 1 en ce vendredi 24 mai. Excellent réveil à tous. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La fin de la campagne pour les européennes, nous irons au meeting de Jean-Luc Mélenchon hier soir près de Lyon. Il a appelé à punir Emmanuel Macron dimanche.
À 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra Pascal Canfin, numéro 2 de la liste de la majorité.
Le bac se rapproche pour les élèves de terminale, mais certains ont une source de stress supplémentaire, les bugs sur la plateforme Parcoursup. Et puis décidément, les ennuis s'accumulent pour le président du PSG, Nasser El Khelaifi. Fille est mise en examen pour corruption active dans l'enquête sur l'attribution des mondiaux d'athlétisme à Doha.
Europe 1.
Plus que quelques heures pour convaincre. La campagne des européennes prend donc fin tout à l'heure à minuit. D'ici là, les candidats tiendront leur dernier meeting. La France insoumise sortira son holovan à Lille, autrement dit son camion avec un hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Le leader du parti qui était hier soir en chair et en os à Villeurbanne, près de Lyon, il a tenté de remobiliser son camp alors que les sondages le créditent de seulement 8% des voix. Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon fait comme si de rien n'était, pas un mot sur ces sondages qui ne décollent pas dans un discours pourtant de près d'une heure et demie. D'ailleurs, il n'est pas non plus beaucoup question d'Europe. Le leader insoumis préfère rendre un hommage appuyé aux Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes sont l'honneur de la patrie républicaine des Français. Ils incarnent l'esprit rebelle, les têtes dures sans lesquelles on ne change jamais rien parce que aucun droit, aucun avantage, aucun partage n'a jamais été acquis autrement que par la lutte.
Mais l'un des gros morceaux de son discours, cette façon assez étonnante, l'écologie, Il veut décréter un état d'urgence climatique et en profite au passage pour cogner sur Emmanuel Macron.
Il dit « on va taxer le kérosène en Europe ». Menteur ! Il y a deux jours, il a refusé l'amendement des Insoumis demandant qu'on taxe maintenant, ici, le kérosène des avions et des bateaux. Vous ne le croyez pas ! Donnez-lui la leçon ! Punissez-le dimanche !
Jean-Luc Mélenchon très offensif et qui a donc beaucoup verdi son discours. Peut-être pour mieux damer le pion d'un de ses concurrents directs dans cette campagne, l'écologiste Yannick Jadot qui le devance dans les sondages, dans une élection qui a souvent été favorable aux Verts dans le passé. Villeurbanne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Voilà, c'était bien Jean-Luc Bougeon et non pas Jean-Luc Mélenchon. On le sait, l'abstention risque d'être particulièrement élevée dimanche, notamment chez les jeunes. C'est à eux qu'Emmanuel Macron s'adressera en fin de journée. Le chef de l'État répondra aux questions du youtubeur Hugo Travers, qui intervient d'ailleurs également sur Europe 1.
On votait aux Pays-Bas dès hier et selon les estimations, les pro-européens ont déjoué les sondages.
Oui, ils sont sortis vainqueurs du scrutin alors que les eurosceptiques étaient donnés gagnants. En revanche, rien n'a filtré sur le Royaume-Uni. On connaîtra les résultats dimanche soir, comme partout ailleurs en Europe. Évidemment, Theresa May les suivra de près, car elle est plus que jamais sur la sellette. Son parti devrait prendre une grande claque et sa démission ne devrait pas tarder. À Londres, Pierre Herbulot.
Est-ce une question de jours, de semaines ? Son avenir à la tête du Royaume-Uni, Theresa May doit en discuter ce matin même avec le chef de file des députés conservateurs. La première ministre avait d'abord promis de quitter ses fonctions si son accord sur le Brexit était accepté. Finalement, elle a laissé entendre qu'elle partirait aussi dans le cas contraire. Oui, sauf que le vote au Parlement vient d'être repoussé sans nouvelle date officielle. La réunion de ce matin doit justement fixer le calendrier pour organiser sa succession. Une dizaine de candidats seraient déjà dans les starting blocks pour prendre sa suite au 10 Downing Street. Parmi eux, l'ex-maire de Londres, Boris Johnson. Theresa May sera toujours première ministre pour accueillir Donald Trump en fin de semaine prochaine, croit savoir l'un de ses proches. Sauf qu'en réalité, personne n'en sait trop rien, si ce n'est que sa démission va avoir lieu dans un futur proche. Les bookmakers se frottent les mains. Londres, Pierre Herbulot, Europe 1.
Aujourd'hui, on vote en Irlande et en République tchèque. Et demain, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barth, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française.
Elles ont fui l'horreur. Une centaine de familles yézidis ont atterri à Toulouse cette semaine.
Oui, c'était une promesse d'Emmanuel Macron à Nadia Mourad, prix Nobel de la paix originaire de cette communauté kurde persécutée par Daesh. 28 familles yézidis, toutes veuves et 110 enfants ont donc été accueillis par la France et ont rejoint plusieurs départements. Benjamin Péter a pu rencontrer certaines d'entre elles à Carmaux, dans le Tarn.
De sa vie au Kurdistan, elle a gardé du thé, de la cannelle, un peu de miel et une photo de son mari mort il y a 5 ans dans les combats contre Daesh. Dans son nouvel appartement, une table, deux chaises, des lits, une cuisine, c'est un peu spartiate. Mais pour Zozane et sa fille de 7 ans, c'est la promesse d'une vie meilleure.
Si je suis venue en Europe, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. J'espère qu'elle aura toutes les chances de réussir et d'être en sécurité. Moi, mon souci, c'est d'apprendre le français, pour être autonome et travailler. Mais la priorité, c'est ma fille.
Derrière ce sourire qui ne la quitte pas, Zozane reste pudique sur les atrocités qu'elle a subies, ses 5 années passées dans les camps de réfugiés. Pour Laurent Pourteau, de l'association Habitat et Humanisme qui les accompagne, ces familles s'habituent tout juste à vivre en sécurité.
Elles ont enfin un endroit sécurisé où lequel elles peuvent vivre, où elles s'aperçoivent qu'elles ont un chez-elles, c'est pas une tente d'un camp de réfugiés. Après, nous, on va essayer d'enclencher très vite l'interaction avec la société, le territoire, mais ça se fait par étapes.
La première étape, ce sera donc des cours de français pour les adultes, l'école pour les enfants. L'association veut aussi les faire participer à la fête de la musique le mois prochain pour qu'ils puissent partager un peu de leur culture. Et ils cherchent maintenant d'autres communes partout en France prêtes à accueillir d'autres familles yézidis. Carmo, Benjamin Péter, Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, avec le stress des élèves de terminale qui subissent les bugs de Parcoursup. À tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani et le bac qui approche à grands pas pour les élèves de terminale. Les épreuves écrites commencent le 17 juin avec la discipline qu'on connaît tous. La première, c'est la philo.
Oui, et beaucoup s'interrogent sur la suite de leurs études. Ils ont les yeux rivés sur la plateforme Parcoursup qui cette année connaît encore quelques ratés. Il y a une semaine, certains ont appris qu'ils étaient admis dans la formation de leurs rêves, mais le lendemain, ils n'étaient plus qu'en liste d'attente. Une erreur humaine, semble-t-il. On ne sait pas combien en ont été victimes. Sébastien Rouxel a rencontré ces jeunes très inquiets.
Pour Lise, le bug de Parcoursup, c'est plusieurs jours de révision perdue pour son bac. Depuis une semaine, cette élève en terminale ES n'arrive pas à penser à autre chose. Vendredi dernier, elle était admise dans un BTS tourisme. avant de se retrouver quelques heures plus tard en liste d'attente, où depuis elle fait le yo-yo entre la première et la 64e place.
Je me lève le matin, ma première chose que je fais directement, c'est aller voir mon portable et regarder combien je suis. Faut téléphoner à Parcoursup, faut en même temps espérer qu'il n'y ait pas un nouveau bug. Maintenant, c'est un peu un ascenseur émotionnel parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est vraiment un stress total.
On savait que 400 formations avaient confondu le nombre de places réelles dans leur établissement et le nombre de places sur leur liste d'attente. Mais on ne sait toujours pas comment ces formations ont pu commettre la même erreur au même moment. Samuel Sivi, porte-parole de l'association des parents d'élèves PEP, attend le fin mot de l'histoire.
Il y a une enquête qui va être mise en place à l'inspection et on attend de voir qui sont les véritables responsables parce que pour qu'il y ait quand même au moins 400 personnes qui ont fait la même erreur au même moment, ça veut dire qu'il y a à minima un problème de formation des personnels.
De son côté, le ministère veut relativiser l'onde de choc de ce bug et préfère insister sur un résultat. À ce jour, 72% des élèves ont reçu au moins une proposition de leur choix.
Sébastien Rouxel.
Football, le président du Paris Saint-Germain mis en examen pour corruption.
Le visage inquiet de Nasser Al-Khelaifi s'affiche d'ailleurs à la une de l'Équipe ce matin avec le titre « Dans les cordes ». Il est mis en cause dans le cadre de l'enquête sur l'attribution suspecte des mondiaux d'athlétisme au Qatar. Une nouvelle qui vient ruiner encore un peu plus la saison du PSG, Simon Rubin.
Le PSG pensait sortir peu à peu de la tempête. Après l'échec européen, les camouflés en coupe, tout le monde s'apprêtait à partir enfin en vacances. Et puis, il y a eu la sortie de Kylian Mbappé, brandissant la menace de quitter le club, l'affaire dans laquelle Nasser est embourbé depuis hier, et des rumeurs de départ des deux stars, non seulement de Mbappé, mais aussi de Neymar, cacophonique. Au milieu de la tempête, l'entraîneur Thomas Tuchel avoue ne plus maîtriser grand-chose. Et quand on lui demande si Neymar et Mbappé vont bien rester au club, il est incapable de l'assurer.
Nous sommes dans le foot et toutes les choses peuvent venir. Je suis attentif, nous ne sommes pas naïfs et je ne suis pas naïf.
Et un entraîneur qui évoque ainsi le départ hypothétique de ses stars, c'est rarissime dans le langage policé et maîtrisé du football. Cela en dit long sur le peu de sérénité qui règne au PSG et cette agitation autour et dans le club, elle devrait durer tout l'été.
Simon Rubin et Europe 1 retransmet ce soir les matchs de la dernière journée de Ligue 1, multiplex entre 20h et 23h30, présenté par Lionel Rousseau.
Le journal de 7h était présenté par Hélène Zélani. Merci Hélène.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10, Nico, c'est l'heure pour nous de retrouver Martin Fenot qui, comme chaque jour, est sur le terrain quelque part en France.
Toute la semaine, Martin nous a donné des exemples concrets de ce que finance l'Union Européenne en France. Il est avec nous, Martin. Vous êtes tous ce matin. Bonjour.
Bonjour Nikos, alors je suis à 6653 mètres de vous, c'est Nikos, précis. Du studio Lagardère Europe 1, effectivement, et c'est vraiment la distance exacte, hein, je le sais, parce que mon téléphone est connecté au satellite Galileo, satellite de géolocalisation européen ultra précis, qui a été en partie conçu ici, au Centre National d'Études Spatiales à Paris. Mmh. Alors des gens qui, comme moi, utilisent Galileo, il y en a plus de 700 millions dans le monde. Ça sert à indiquer le lieu où on vient de prendre une photo ou à trouver un itinéraire, mais tout ça avec une précision extrême. Les 26 satellites en orbite vous géolocalisent à un mètre près. Et ça fait la fierté de David Combi, l'un de ses concepteurs.
C'est vraiment une grande prouesse technologique. Galileo, c'est le grand achèvement technologique de l'Union européenne. Il y a 40 ans en arrière, si on avait imaginé qu'on allait pouvoir se positionner au mètre près n'importe où sur le globe, ça aurait été vraiment de la science-fiction. Aujourd'hui, on est dans le réel.
Et ce qui est très réel, hein, par exemple, c'est quand les tracteurs utilisent Galileo pour leur système de guidage depuis l'espace. Ça se fait aujourd'hui dans certaines exploitations agricoles.
Et dans le futur, Martin, on fera quoi ?
Eh bien, les scientifiques travaillent à encore plus de précision. Dans 2 ans, on sera plus géolocalisé à 1 mètre près, mais à 20 cm près. Écoutez Jean-Yves Le Gall, le président du CNES.
Lorsqu'on ira vers le véhicule autonome, Galileo permettra au véhicule autonome de faire un créneau tout seul parce qu'il saura avec précision dans quel endroit il se trouve dans la rue. Et c'est probablement ce côté très concret qui fait que l'Europe, qui est parfois abstraite, bien sur le spatial, ça marche bien.
Et quelles sont les autres missions de l'Odyssée spatiale européenne, Martin ?
Alors, il y en a beaucoup, mais la plus emblématique, c'est peut-être Copernicus, satellite d'observation de la Terre, dont la mission est de fournir des données environnementales sur le climat, un programme unique au monde. D'ailleurs, le budget dédié au spatial en Europe va augmenter dans les prochaines années, 16 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et puis, on le dit peu, Nikos, mais l'Union européenne, c'est aujourd'hui la deuxième puissance spatiale dans le monde après les États-Unis.
Oui, ce que vous nous dites aussi, l'info de ce matin, c'est c'est que dans 2 ans, on pourra nous géolocaliser à 20 cm près, c'est qu'on ne peut plus se cacher, quoi, c'est terminé.
Ah, c'est ultra précis.
Merci Martha Fenot pour cette semaine spéciale européenne, au cours de laquelle on a appris que l'Union européenne finançait notamment un téléphérique urbain à Brest, un hôpital franco-espagnol sur la frontière, mais aussi formait pour des métiers d'exception. Et ce matin, on a découvert ce programme spatial ambitieux, Galileo. Ça me fait penser à Queen, Galileo, Galileo. Et ça fait sourire en tous les cas, notre ami Nicolas Barré. Merci Martha Fenot.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
D'ailleurs, je vous vois sourire, mais vous parlez de quoi ce matin, Nicolas ?
Je vous parle de la bataille entre le groupe Casino qui possède Monoprix, Franprix et des spéculateurs. Vous allez voir.
À 7h20, dernière étape de notre tour d'Europe avant les élections dimanche avec notre reporter Sébastien Krebs. Vous nous emmenez où ce matin, Sébastien ?
On part à Athènes. On va voir où en est la crise et si les Grecs en veulent toujours à l'Europe.
Vous avez appris quelques mots là-bas ?
Quelques-uns et Flaisto.
Voilà, bien joué, ça veut dire merci, bah, c'est moi tout de suite. Bonne journée à tous sur Europe
1. Et très bon réveil, il est 7h14. Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nicolas Aliagas.
De nouveaux soupçons pèsent sur l'anesthésiste de Besançon. Le docteur Péchier aurait essayé d'empoisonner l'une de ses collègues lors d'une opération il y a 3 ans. Il est déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 qui ont entraîné la mort. On y reviendra dans quelques instants à 7h30 dans le journal de Céline Kallmann. Et puis en plein scrutin européen, les jeunes sont appelés à une deuxième grève mondiale pour le climat. Des marches sont prévues dans plusieurs dizaines de villes en France, Paris, Bordeaux, Nantes, Nancy, Lyon ou encore Marseille. Football, dernière journée de Ligue 1 ce soir. On suivra surtout le bas du classement. Dijon et Caen, menacés de descente. Multiplex en direct sur Europe 1 dès 20h, présenté par Lionel Rousseau.
Europe 1. Économie maintenant, Nico, c'est l'édito éco avec la Banque Courtois pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et la maison mère Casino est placée sous procédure de sauvegarde. C'est un bras de fer qui dure depuis des mois entre le groupe de distribution qui possède Monoprix et Franprix et des spéculateurs qui, on peut le dire, Nicolas, veulent tout simplement sa peau.
Oui, depuis des mois, en fait, un certain nombre de groupes de fonds spéculatifs, s'attaquent au groupe de distribution. Leur stratégie est simple, faire baisser le cours en spéculant sur le fait qu'ils pourront racheter plus tard ces actions à un cours inférieur. Je vous vends 40 euros, une action que j'espère acheter demain 30, et donc j'empoche 10 euros de bénéfice. Mm-hmm. Pourquoi ces fonds visent-ils Casino ? Parce que c'est une bonne cible, car son principal actionnaire, celui qui a bâti le groupe, l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri, ex-bras droit de Pierre Brégovoy au ministère des Finances, a accumulé beaucoup de dettes, des dettes garanties par des actions Casino. L'édifice est donc fragile, et plus l'action baisse, plus ceux qui spéculent peuvent espérer empocher un bénéfice. C'est un cercle vicieux.
Il y a une parade tout de même ?
Alors, la parade assez radicale annoncée hier soir consiste à placer les sociétés qui contrôlent ce groupe en procédure de sauvegarde. Ça permet de geler la dette en attendant qu'elle soit étalée sur plusieurs années. Et ça permet aussi de couper l'herbe sous le pied de ces spéculateurs. Ils ne peuvent plus espérer faire s'écrouler l'édifice. Le paradoxe de l'histoire d'ailleurs, c'est que le groupe Casino lui-même est sain. C'est son actionnaire qui est très endetté, mais Casino emploie 220 000 personnes dans le monde. C'est un empire avec des positions fortes. Cdiscount pour les ventes sur Internet, Monoprix, Franprix, toutes ces activités sont saines et d'ailleurs enviées par la concurrence. Un banquier me disait hier, les spéculateurs, c'est une bande de piranhas qui s'acharnent sur un animal sain.
Est-ce que cette affaire peut avoir une répercussion pour les salariés ou les clients de Casino précisément ?
Alors à ce stade, non, mais si le bras de fer s'était prolongé, il y aurait pu y avoir des conséquences lourdes, par exemple en obligeant Jean-Charles Naouri à vendre dans de mauvaises conditions certaines parties de l'Empire Casino pour alléger la dette. Alors là, avec cette procédure de sauvegarde, Jean-Charles Naouri se donne du temps, il va renégocier la dette avec les banques, mais sans avoir le couteau sous la gorge, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Mm-hmm. Les banques poseront des conditions, elles sont en position de le faire, mais au moins pendant ce temps-là, les enseignes du groupe Casino seront immunisées contre les difficultés de son principal actionnaire.
C'était l'édito éco avec vous, Nicolas Barré.
Europe 1, Nicolas Aliagas.
Il est 7h19, l'heure d'Europe 1 va plus loin. Dernière étape ce matin de notre voyage à travers l'Union Européenne avec Sébastien Krebs, Nikos, avant les élections de dimanche en France.
Calimera Sébastien Krebs.
Bonjour Nikos.
Nous avons commencé ce voyage lundi près de la Baltique, nous le terminons au bord de la Méditerranée. Nous allons ce matin dans un pays à qui l'Europe a demandé énormément de sacrifices et qui commence tout juste à peine à relever la tête après 8 années d'une crise terrible. On parle de la Grèce. Comment se porte le pays aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que ça va mieux?
Alors, c'est vrai que le spectre d'un Grexit, d'une sortie de l'Europe, s'est éloigné, celui d'une faillite aussi. La Grèce est sortie des plans d'aide l'été dernier et donc de la tutelle de ses créanciers. Elle a pu réemprunter sur les marchés. La croissance est revenue depuis 2 ans. Les taux semblent donc s'être au moins un peu desserrés. Bilan que le Premier ministre Alexis Tsipras martèle en ce moment dans ses meetings. Ce soir-là, c'était dans une banlieue populaire d'Athènes. « Nous n'avons plus besoin des technocrates de Bruxelles », disait-il, se vantant d'avoir enfin augmenté le SMIC, qui avait tant baissé. Aujourd'hui, c'est 650 euros.
Seulement.
Cadeau de campagne, oui, c'est toujours assez bas. Cadeau de campagne, il vient aussi d'offrir un 13e mois aux retraités, de quoi redonner un peu le moral à ses électeurs.
Ma retraite a énormément baissé, de 40%. Mais là, je vois qu'il y a une certaine amélioration. Elle a réaugmenté de 15 euros.
C'est normal d'en vouloir à l'Europe quand on baisse ton salaire comme ça. Mais en réalité, c'est vrai que l'Europe nous a quand même aidés.
Oui, mais ça ne suffit pas de sortir des plans d'aide. Maintenant, il faut des infrastructures, du travail pour les jeunes et des perspectives.
Et le problème qui reste incontournable en Grèce, c'est le chômage.
Ouais, c'est le gros point noir, 18%, le plus élevé de l'Union. Chez les jeunes, il frôle les 40%. Et ce sont les étudiants que j'ai croisés qui ont été les plus virulents, accusant l'Europe.
On nous a appris toute notre enfance que l'Europe était une très belle idée, très positive. Mais ce que je vois, ce ne sont que des situations difficiles. Nous les jeunes, on veut travailler.
Beaucoup de jeunes quittent le pays pour travailler à l'étranger. Est-ce qu'ils en veulent vraiment à l'Europe?
Ils en veulent encore à l'Europe. Ouais, la Grèce est sous surveillance et n'est pas terminée. Elle est quand même sous surveillance de ses créanciers. Il reste une dette colossale, 180% du PIB. Alexis Tsipras n'a jamais obtenu son effacement. Et l'austérité, en fait, bah, elle est toujours là. Les pensions de retraite ont baissé 23 fois en 8 ans. Le revenu médian, il dépasse à peine les 600 euros. La pauvreté n'a pas réellement diminué. Andreas, 75 ans, ouvrier à la retraite avec sa femme, ils vivent avec moins de 500 euros.
Je désespère à me dire que j'ai travaillé toute ma vie et que je n'ai plus que ça. Je perds confiance. Peut-être qu'un jour ça ira mieux, mais je crois que ça ne sera pas de mon vivant. J'aimerais qu'ils se disent que l'Europe est une famille et que la Grèce fait partie de cette famille.
Et il ira quand même voter, Andreas, dimanche, avec l'espoir que les députés européens défendront la Grèce. En attendant, il va comme beaucoup trouver de l'aide auprès de sa paroisse. Ce prêtre me disait qu'il ne voit pas du tout d'amélioration en ce moment. L'église accueille toujours 20 000 personnes dans les soupes populaires qu'elle organise. Et de tous les âges.
En fait, c'est dur aussi pour ceux qui travaillent.
Ouais, les salaires ne sont que très peu remontés. Et en même temps, le tourisme à Athènes a fait exploser les prix de l'immobilier, si bien qu'il devient très difficile de se loger. Je vous emmène chez Nikos Rompapas. Il est informaticien et il a dû retourner vivre chez ses parents au début de la crise avec sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, il en a 3. Ils ont coupé l'appartement en 2. Ça commence à faire petit, mais il ne peut toujours pas faire autrement. Ses revenus ont été divisés par 2.
On ne s'attendait pas à rester aussi longtemps avec les enfants qui sont grands, tous dans la même chambre. On n'en voit pas le bout de cette crise.
Moi, j'en veux à l'Europe. Ils auraient dû être plus compréhensifs avec la Grèce. Mais pas ce massacre. Ça a été un vrai massacre.
Ouais, c'est sa mère que vous entendez là qui est en colère.
Qu'est-ce qui manque pour que ça reparte?
Un peu de croissance. Elle n'est qu'à 2%. Les experts estiment que la Grèce peut faire mieux et s'attaquer vraiment au chômage. Le pays échoue encore à se rendre suffisamment attractif pour les entreprises, pour les investisseurs étrangers. La gauche de Tsipras a eu massivement recours aux impôts, ils sont très élevés. Et c'est tout le débat qui occupe cette campagne en ce moment, dont l'enjeu en fait n'est pas très européen. Cette élection dimanche, c'est surtout la répétition générale avant les législatives qui auront lieu à l'automne et où Tsipras joue sa peau. Il est menacé de perdre le pouvoir, devancé par le parti de centre-droit.
Incarné par Kyriakos Mitsotakis, qui est le président du parti de l'opposition, la Nouvelle Démocratie. Athènes, c'était la dernière étape de vos 5 jours de voyage. Vous en avez fait des kilomètres. Sur le vieux continent, Sébastien Krebs, c'est la Grèce, je vous le précise. Va élire 21 eurodéputés. Émission spéciale sur Europe 1 dimanche de 18h à 23h que vous présentez avec
Raphaël Duchemin.
Voilà, pour comprendre le scrutin européen. Il y aura aussi à vos côtés Philippe Vandel. Merci beaucoup Sébastien Krebs.
Merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, l'innovation avec Anis Mbida. Un truc de dingue ce matin. On va bientôt pouvoir louer ses propres vêtements.
Oui, c'est surtout très utile pour tous ceux qui ont un peu des achats compulsifs et qui se retrouvent avec des tonnes et des tonnes de fringues dans le placard.
Qu'est-ce que vous
pourriez
louer, vous? Vous pourriez louer quoi comme un pantalon, des chaussettes?
Oui, un petit haut.
Des chaussures aussi?
Un petit haut. Ah, vous avez des petits
hauts. Un petit polo.
À tout de suite, Anissé.
Un très bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h24.
Il est 7h25. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Agnès Mbida, Nikos.
Peut-être que vous êtes en train de vous préparer à la maison et peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont toujours le sentiment de ne rien avoir à se mettre. Et alors que leur armoire est pleine à craquer ou qui achètent des vêtements sans jamais les porter de façon compulsive, comme vient de nous le dire Agnès Mbida. Et ce matin, vous nous parlez justement d'une nouvelle tendance, louer ses propres vêtements. Expliquez-moi comment et où.
C'est pas ses propres vêtements, c'est louer les vêtements. Alors ça fonctionne par abonnement. On paye entre 40 et 90 euros par mois.
D'accord.
Et on peut choisir 4, 5, 6 vêtements sur un catalogue.
Ah ouais, là, je peux pas le faire en tant que privé, je peux pas louer mes slips.
On peut aussi faire.
Ouais, d'accord, non, mais je plaisante.
Donc on commande 4, 5, 6 vêtements, on les reçoit, on les porte autant qu'on veut et on les renvoie le mois suivant dans une pochette prépayée pour en recevoir d'autres. À partir de là, ils sont lavés, inspectés et proposés à d'autres abonnés. D'accord. Ou au pire, ils sont recyclés s'ils sont pas portables. Donc on peut changer de look très régulièrement sans accumuler des tonnes de fringues puisqu'on les partage avec d'autres. Et donc c'est une consommation un peu plus responsable, un peu plus circulaire.
Non, parce que la location de vêtements, ça existe notamment pour les artistes. Ou voilà, on peut louer un smoking à Cannes, par exemple.
Oui, ça existe. Mais comme vous le dites, hein, c'est plutôt les vêtements de luxe ou bien les tenues de soirée. Ou alors, c'était proposé par de toutes petites startups. Je pense par exemple à Le Closet, à Panoply ou au Grand Dressing, par exemple. Mais là, la nouveauté, c'est que ça arrive maintenant dans la mode de tous les jours. Donc le petit haut, le t-shirt pas cher.
D'accord.
Mais surtout, ce qui peut tout changer, c'est que les grandes marques commencent à s'y mettre. L'enseigne Urban Outfitter va par exemple lancer un abonnement dans les prochaines semaines. Et se murmure que Zara, les magasins Zara, sont très intéressés par la formule. Et vraiment, il était temps, hein, parce qu'avec toutes les collections qui s'enchaînent là de plus en plus vite, on pousse à la consommation, on achète des fringues et elles restent des mois avec les petites étiquettes. Et ça finit par créer d'énormes gaspillages.
Et ça peut faire aussi travailler et tourner tout ce qui n'a pas été vendu, en fait.
Oui, c'est ça.
Même de la saison d'avant ou des modèles d'avant.
Oui, ça marche pour le vintage aussi. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi un système où on peut prendre ses propres vêtements et les remettre dans le circuit. Ça permet de recycler.
De Airbnb du vêtement. On achète deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans, on les porte deux fois moins longtemps. Or, l'industrie textile est l'une des plus polluantes aussi. Merci Agnès Mbida pour cette info autour de l'innovation.
C'était l'innovation du jour avec EDF, bâtiments durables, éclairage intelligent, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann et tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la
météo. Est-ce que vous avez un manteau à louer ?
Non, mais je vais louer un impair, moi.
Ah bon ?
Un impair. Aujourd'hui, l'impair passe et gagne. Voilà, nous sommes. Il pleut parfois fortement et nous allons donc devoir nous abriter dans le Béarn, le Midi-Pyrénées, la vallée de la Garonne, le Languedoc-Roussillon, de fortes pluies aussi autour de la Haute-Garonne et puis des averses orageuses dans l'après-midi sur l'Aveyron, le Lot, le Limousin, l'Orléanais et la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, l'Alsace, la Franche-Comté, le Massif Alpin. Sur la Manche, des éclaircies comme sur le Poitou-Charentes et la Provence-Côte d'Azur. À Paris, pas mal quand même de belles éclaircies avec des averses ce soir. Et sur le bassin méditerranéen, ce sera qu'un cas mitigé. En ce qui concerne les températures, elles ont changé énormément pour certains d'entre nous. 17 à Toulouse et Albi, 18 à Caen et Bayonne, 19 à Nice, 20 à Bordeaux, La Rochelle, 21 à Rennes, 22 à Lille, 23 à Marseille, à Clermont, Verdun et Dijon, 24 à Paris, je termine, 25 à Strasbourg, 26 à Lyon et 28 à Avignon.
Merci beaucoup. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
À suivre, Nikos.
À 7h40, Jean-Michel Apathy. Il fera le bilan de la campagne des européennes qui s'achève ce soir à minuit. À 7h43, Axel de Tarlet. Il nous parlera de la descente aux enfers de la firme Huawei, le géant chinois qui est foudroyé par la guerre que lui mène le président américain Donald Trump. C'est quoi la prononciation ? Je vois sourire, c'est une canadienne.
Huawei.
Huawei, Huawei, je ne sais plus.
Huawei.
Huawei. Huawei. Huawei. La téléphonie chinoise. Et à 7h45, je reçois un champion, Richard Gasquet, le français qui revient après 6 mois d'absence. Roland Garros démarre dimanche. Excellent réveil à tous sur Europe 1. Merci de nous faire confiance.
Nous sommes le vendredi 24 mai, il est 7h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal est présenté à 7h30 par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Nouveaux soupçons, nouvelles révélations dans l'enquête sur le docteur Péchier, l'anesthésiste de Besançon, mis en examen pour l'empoisonnement de 24 patients, dont 9 sont morts. En 2016, une consœur de l'anesthésiste s'est fait opérer dans la clinique Saint-Vincent. La patiente qui a pris sa place au dernier moment est décédée. Pour les enquêteurs, c'est pourtant bien sa collègue qui était visée, Pierre de Cossette.
Lorsque l'affaire a éclaté, tout s'est éclairé pour Catherine Nambeau. Elle-même anesthésiste, elle se souvient du mystérieux décès d'un de ses patients en 2008. Le docteur Péchier était là. Mais elle tremble surtout en repensant à ce jour où elle-même a été opérée. Le docteur Péchier devait faire l'anesthésie, les poches de produits étaient prêtes. Mais finalement, changement de planning, c'est une autre patiente qui prend sa place et qui succombe. Coïncidence, difficile à croire pour son avocat Alain Dreyfus-Schmidt.
Rétrospectivement, on réalise effectivement que manifestement, il avait voulu l'emploi. Poisonné ce jour-là. Ce qui correspond assez à la psychologie du docteur Péchier. Vous imaginez bien, s'il avait sauvé la vie d'une de ses collègues, il sortait à nouveau comme le héros, comme celui qui précisément arrive à ressusciter en quelque sorte les gens. Effectivement, il y en a certains qui ont été sauvés. Alors elle, est-ce qu'elle l'aurait été ou pas ? On ne le saura jamais.
Quelque temps avant cette opération, les deux collègues s'étaient un peu brouillés. Des relations conflictuelles récurrentes entre le docteur Péchier et ses confrères. Pour le procureur, les incidents suspects à la clinique étaient plus fréquents durant ces périodes.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Le président du PSG, Nasser El Khelaifi, mis en examen pour corruption active. L'affaire n'a rien à voir avec le club parisien, mais c'est évidemment mauvais pour l'image. Il est poursuivi dans le cadre de l'attribution des mondiaux d'athlétisme en 2017. Ce soir minuit, fin de campagne des européennes, Emmanuel Macron sera aujourd'hui face à un youtubeur, Hugo Travers. Vous le connaissez, il est tous les jeudis sur Europe 1 chez Mathieu Béliard dans le Grand Journal du Soir. Le chef de l'État sera donc en direct à 18h15 sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte, un échange qui devrait durer 45 minutes. Aujourd'hui, on vote pour les européennes en Irlande et République tchèque. Hier, aux Pays-Bas, les pro-européens sont sortis vainqueurs du scrutin, alors que les eurosceptiques étaient donnés favoris.
Et à deux jours du vote, en France, une nouvelle journée de mobilisation pour justement faire de l'écologie le thème central de ce scrutin.
Oui, plus de 130 manifestations à travers tout le pays. Des dizaines de syndicats et associations comme Greenpeace vont se joindre à ces marches à Paris, Nantes, Bordeaux, Nancy ou encore Toulouse. Écoutez son directeur général Jean-François Julliard qui appelle à voter dimanche sans donner de consigne.
Il est nécessaire d'aller voter. Les élections européennes sont importantes pour les enjeux environnementaux. Il y a aujourd'hui près de 70% des normes environnementales dans les différents pays européens qui sont issues de directives ou de règlements européens. Ça fait partie des éléments déterminants pour aussi reprendre en main notre avenir. On ne donne pas de consigne de vote, bien sûr, parce qu'on est un mouvement apartisan. Tous les partis politiques aujourd'hui ont une couche d'environnement dans leur programme. Notre rôle, c'est aussi d'aller plus loin que ça, d'aller dans un décryptage pour dire que, attention, derrière les promesses et les engagements, parfois la réalité est tout autre. Essayer à la fois de pousser les partis politiques pour qu'ils fassent plus, qu'ils fassent mieux et surtout qu'ils soient plus sincères dans leur engagement écologique et environnemental.
Propos recueillis par Sébastien Rouxel. La maison mère du géant de la grande distribution Casino, placée en procédure de sauvegarde pour 6 mois. Objectif, geler le paiement des dettes qui s'élèvent à près de 3 milliards d'euros. Un gel pour mener à bien la restructuration financière du groupe. Casino a souligné dans un communiqué que son activité et ses salariés n'étaient pas concernés par cette procédure.
Roland Garros commence ce dimanche. Alors, il y a encore 2 jours à patienter, mais ça y est, on connaît le tableau des joueurs et des joueuses.
Oui, le tirage au sort a eu lieu hier soir. Pas de grandes surprises et les favoris comme Roger Federer ou encore Rafael Nadal devraient avoir un début de tournoi plutôt tranquille. Christophe Lamarre.
C'est le privilège des meilleurs joueurs. Leur classement les protège et les met en face d'adversaires peu dangereux, au moins jusqu'en 8e de finale, c'est-à-dire la fameuse 2e semaine. On devrait donc y retrouver Rafael Nadal. L'Espagnol reste le favori pour aller chercher un 12e titre porte d'Auteuil. Novak Djokovic et Roger Federer, qui fait son grand retour, ont droit eux aussi à des premiers tours assez faciles. Côté français, le tirage au sort a été plutôt clément, sauf peut-être pour Gaël Monfils. Le Parisien rêve de remporter Roland Garros, mais en 2e semaine, justement, il pourrait affronter un outsider en 8e de finale, l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste l'an dernier. Chez les filles, le suspense est garanti, peut-être même jusqu'au bout. Les candidates à la victoire finale sont nombreuses. La tenante du titre, Simona Halep, n'a pas gagné le moindre tournoi cette année, mais la 3e mondiale a pour elle l'expérience et l'habitude de cette surface. Côté française, tous les regards seront tournés une fois de plus vers Caroline Garcia.
Christophe Lamarre, que l'on retrouvera aux côtés de Corinne Boulou pendant Roland Garros, dont Europe 1 à la radio officielle.
Réjouissez-vous, ce soir c'est la fête des voisins.
20e édition, plus de 9 millions de participants, et c'est dans une rue de Paris en 1999 qu'est née cette initiative. Victor Delande est retourné voir ses habitants qui n'ont pas attendu ce soir pour fêter ça.
Une grande table sur la chaussée, des chips, des quiches, du saucisson. 20 ans après, la recette de la fête des voisins n'a pas changé. Et pour celui qui en a eu l'idée, le premier, Athanase Périfan, la même simplicité.
Vous venez à la fête des voisins ? Super, Athanase, votre voisin d'en face.
Très bien.
On ne se connaissait pas.
Non, du tout.
Pour passer une bonne fête des voisins, il faut déjà écouter les conseils du spécialiste.
On est tous coincés dans le paraître, qu'est-ce qu'on va dire, machin. Et faut arrêter de se la jouer, faut aller vers l'autre, c'est ça qui est essentiel.
La concierge de l'immeuble a reçu le message, cette convivialité, elle adore.
C'est formidable, les voisins s'entendent très bien.
Il y a aussi les piques-assiettes, Jean-Marc, du 3e, les a bien repérés.
Il y a les requins, des gens qui viennent, ils sont prêts à tout partager, mais ils ont rien.
Une fête des voisins, c'est également un très bon plan drague.
Il y a eu même un petit couple qui s'est formé par la fête des voisins.
Sans oublier le plus important.
Ça tombe à l'heure parfaite de l'apéro.
Avec modération, bien sûr.
Après, on ne se parle plus le lendemain.
Le Festival de Cannes, 6 ans après la Palme d'Or, avec la vie d'Adèle Abdelatif Kechiche, était de retour sur la croisette avec son nouveau film Mektoub My Love Intermezzo, film de 3h28. De nombreuses personnes sont sorties de la salle avant la fin, certains jugeant le film pornographique. Mathieu Charrière viendra dans son journal de Cannes à 8h35.
Je crois qu'il n'a pas aimé le film. Je ne veux pas le spolier, mais bon, il arrive tout à l'heure. Merci beaucoup Céline Kallmann, c'était le journal de 7h30.
Et si vous voulez réagir à l'actualité, nous dire par exemple si vous aimez la fête des voisins, et bien faites-le en nous écrivant sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Jean-Michel Apathy arrive.
Ouais,
on parle de quoi
Nicolas.
De la fête des voisins européens?
Non, ah bah, c'est pas la fête des voisins, mais on va faire le bilan de la campagne électorale qui se termine. Elle se termine à minuit. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette campagne. On dit qu'elle n'a pas eu lieu, on se trompe.
Je suis impatient de vous écouter. Axel de Tarlé, on parle de téléphonie ce matin?
Oui, je voudrais revenir sur la guerre de Donald Trump contre Huawei, qui pourrait s'avérer contre-productive et accélérer finalement l'émergence en Chine d'un redoutable concurrent.
Vous avez dit Huawei tout à l'heure, on m'a dit
Huawei.
Je ne sais jamais plus comment dire. Je ne suis pas
Donald Trump non plus.
Sinophone.
Moi, je dis ouais.
Allez, Apathy Tarlé, dans un instant sur Europe 1.
Ah, il est 7h36, bon réveil à tous. Il est 7h39, Nicolas Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Alors la campagne pour les élections européennes se termine ce soir à minuit. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan de ce qu'on a vécu, Jean-Michel ?
Il y a beaucoup d'enseignements, en fait, dans cette campagne électorale. D'abord, un attachement à l'Europe. Si vous prenez les intentions de vote, parce qu'on n'a que des intentions de vote aujourd'hui, les 7-8 listes qui sont en tête... Toutes sont attachées à l'Europe. Personne ne dit qu'il faut que la France sorte de l'Europe. Et en même temps, cette campagne n'a pas révélé, parce qu'on le savait, mais a révélé, disons-le comme ça, une insatisfaction de l'Europe. Mmh. Autrement dit, les Français tiennent à quelque chose qu'ils n'aiment pas. Il y a là une part de la douleur française, de la crise politique française.
Paradoxal.
Oui, ce paradoxe-là, cette contradiction-là est douloureuse et il n'y a aucun leader, il faut bien le dire, qui est capable de surmonter cette contradiction-là. Donc, nous vivons avec cette douleur. Le deuxième enseignement, c'est un attachement à l'euro. Ça, on ne le dira jamais assez. Jusqu'ici, dans des élections, l'euro était toujours contesté par une force politique importante, ça n'est plus le cas. Si on prend la montée des courants nationalistes, qui est une réalité en Europe, par exemple, dans les 19 pays de la zone euro, pas un de ces courants nationalistes aujourd'hui ne demande la fin de l'euro, la sortie de l'euro.
Ce qui n'était pas le cas lors du
Ce qui n'était pas le cas en 2014, et ce qui veut dire que les courants nationalistes construisent leur succès, non pas sur la critique de l'Europe, en fait, mais sur la critique, par exemple, de l'immigration. C'est là-dessus qu'ils la construisent. Et il y a une preuve irréfutable, c'est que le Front National en 2014 pour la sortie de l'euro, le Rassemblement National en 2019, il n'est plus pour la sortie de l'euro, donc virage à 180 degrés. Il ne perd pas un électeur selon les intentions de vote. Ça veut dire que les Français sont là, derrière le Rassemblement National, pour l'immigration, pas pour l'euro. Et il vaut mieux d'ailleurs, pour elle, que Marine Le Pen arrête de parler d'économie, parce qu'elle y connaît à peu près autant que moi, donc du coup elle n'en a pas parlé pendant cette campagne, et c'est sans doute beaucoup mieux pour elle. La troisième remarque, c'est que c'est sans doute la première campagne électorale en France où l'écologie a été aussi présente, aussi partagée par les partis politiques. Des partis politiques qui n'en parlaient pratiquement jamais en ont parlé beaucoup cette année. Et on peut noter, ça n'est pas encore net, mais ça le sera, qu'il y aura un consensus sur les problèmes que pose l'écologie, mais aussi sur les réponses à apporter. Pourquoi ? Parce que c'est le premier débat politique important qui repose sur des bases scientifiques. Et qu'est-ce que vous voulez ? Avec l'idéologie, on peut faire et dire n'importe quoi. Et Dieu sait qu'en France, on a dit n'importe quoi pendant longtemps. Quand on parle de choses scientifiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a là, sans doute, un socle pour les années futures qui a commencé à se dessiner.
Il y a eu une évolution, parce qu'il y a encore quelques temps, on disait que les problèmes écologiques étaient problèmes de bobos.
Oui, des problèmes de bobos, et puis il y avait des partis politiques qui n'en parlaient pas du tout. Emmanuel Macron, il a fait plusieurs conférences de presse où discours en oubliant de parler de l'écologie. Ça, c'est fini.
On a passé une étape.
Le Rassemblement national, ça, a longtemps, on n'a même pas su ce que c'était l'écologie. Oui, on a passé une étape. Et ça, c'est du drame qui est devant nous. Donc, voilà. Et la troisième, ou la dernière leçon, parce que je crois que c'est la quatrième, là, j'ai mal compris, mais la quatrième leçon que l'on peut tirer de cette campagne électorale, une campagne électorale, ça permet de mesurer des rapports de force entre les partis politiques. Mmh. Et là, il faut dire que c'est assez dramatique en France. Le Rassemblement national et La République en marche dominent la compétition. 20-25% des intentions de vote, ils n'ont aucun allié. Ça c'est une circonstance qui n'a jamais existé dans une démocratie. Ce sont des partis faibles et ce sont les seuls qui peuvent prétendre au pouvoir. Droite et gauche sont à des niveaux historiquement bas. Ça veut dire que la France s'enfonce dans un désenchantement politique qui en fait vraiment l'un des grands pays malades en Europe.
Le point de vue politique ce matin de Jean-Michel Apathy. D'une analyse à l'autre avec Axel de Tarlé, la semaine noire pour Huawei, le géant chinois des télécoms qui vit très mal la guerre que lui mène personnellement Donald Trump.
Bah oui.
On a rarement vu un président, notamment américain, attaquer une firme. Quoi.
Avec autant de succès, parce que Huawei est lâché de toutes parts. Il vient d'être lâché par ses fournisseurs. On apprend que Panasonic et Toshiba viennent d'annoncer qu'ils ne livreraient plus de pièces à Huawei. Pas question de prendre le risque de se fâcher avec Donald Trump, hein, maintenant que Huawei est sur une liste noire. Mais Huawei est aussi lâché par ses clients. On parle quand même du numéro 2 mondial des appareils, là. Eh bien, les opérateurs télécoms en Grande-Bretagne et au Japon ne proposeront plus de téléphone Huawei qui, c'est vrai, bientôt, Huawei ils n'auront plus, vous savez, ces applications Google telles que Gmail ou YouTube. C'est quand même très embarrassant pour les clients. Donc, en l'espace de 4 jours, Huawei, qui est un géant des télécoms, est à terre. Voilà. On mesure quand même la puissance de l'Amérique et d'un Donald Trump qui, quasiment en un tweet, alors même si là, il n'a pas tweeté, est capable d'abattre un leader mondial.
C'est une guerre économique. Est-ce que les Chinois ont encore la main ? Est-ce qu'ils peuvent réagir ? Que peut faire Huawei ?
Alors c'est ça qui est très intéressant. Huawei a d'ores et déjà annoncé que puisqu'il ne pourra plus avoir accès à l'univers Google, que va-t-il faire ? Eh bien, il va construire et développer son propre système d'exploitation. D'ailleurs, il est déjà en développement. Simplement, cette affaire va accélérer les choses. Et vous voyez, finalement, Donald Trump n'est-il pas en train d'accélérer l'émergence en Chine de redoutables concurrents ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que cette histoire qui arrive aux Chinois, ça nous est arrivé à nous, les Européens, au début des années 70. Ouais. Alors, pas dans les télécoms, mais dans l'espace. Petit retour en arrière. Allez-y. Au début des années 70, Français et Allemands créent un satellite de télévision qui s'appelle Symphony et nous demandons à Washington de nous l'envoyer dans l'espace. Les Américains ont refusé ou ils nous ont imposé des conditions jugées humiliantes. Qu'a-t-on fait en Europe ? Eh bien, c'est là où on a décidé de créer Ariane, la fusée Ariane, qui deviendra par la suite le premier lanceur commercial du monde. Mais cette histoire d'indépendance, c'est aussi l'histoire du Rafale, qui exprès le Rafale, cet avion de chasse, n'a aucune pièce américaine. Il est construit de A à Z avec du Made in France pour que nous ne soyons jamais l'otage, justement, de ce genre de pression américaine. Vous voyez, souveraineté et indépendance. Et finalement, et c'est ce que dit Angela Merkel, avec cette attitude de défi, au fond, Donald Trump nous rend service. Au moins, les choses sont claires, a dit la chancelière. L'Europe doit maintenant vraiment prendre son destin en main.
Merci pour cette analyse et ces explications, Axel de Tarlé. C'était le Zoom Echo.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, Roland Garros qui démarre dimanche. Dans un instant, je reçois Richard Gasquet. Il aura le gros défi. Oui, le défi de battre peut-être les meilleurs aujourd'hui. Le Français revient après 6 mois d'absence. À tout de suite.
Un très bon réveil sur Europe 1. Il est 7h45. Il est 7h46, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
De nouveaux soupçons sur l'anesthésiste de Besançon. Le docteur Péchier aurait essayé d'empoisonner l'une de ses collègues lors d'une opération il y a 3 ans. Les jeunes, de nouveau appelés à descendre dans la rue aujourd'hui pour une grève mondiale pour le climat, des appels répertoriés dans plus de 1700 villes à travers 90 pays. La première ministre britannique Theresa May pourrait annoncer sa démission aujourd'hui. Hier, elle a dû se résoudre à repousser le vote de son projet de loi de la dernière chance sur le Brexit. Et puis la 38e et dernière journée de Ligue 1 au programme, notamment le Paris Saint-Germain qui joue ce soir à Reims, à vivre en multiplex sur Europe 1. Rendez-vous sur notre antenne dès 20h.
Europe 1. Ça y est, on y est. Roland Garros débute dimanche. Nikos vous en parlait ce matin avec Richard Gasquet. Le Français revient après 6 mois d'absence. Au premier tour, il affrontera l'Allemand Alexander Zverev, classé 103e mondial. L'interview a été réalisée avant le tirage au sort.
Bonjour Richard Gasquet.
Bonjour.
Vous arrivez à Roland-Garros après avoir déclaré forfait à Lyon cette semaine. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Rassurez-nous, ça va mieux ?
Ouais, physiquement, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai eu pas mal d'arrêts, j'ai eu une opération, donc voilà, c'est pas facile. Mais bon, je pense que je vais jouer à Roland-Garros. Voilà, c'est toujours un grand plaisir. C'est sûr que j'ai pas les objectifs que je pouvais avoir les années précédentes. Mais bon, je suis quand même heureux d'y être et je vais faire le maximum.
Alors c'est vrai que vous avez eu des pépins de santé cette année, ça s'est un peu enchaîné. Vous dites que c'est déjà une victoire de participer à Roland-Garros et d'être porté par le public français. Est-ce que vous avez eu peur de ne jamais rejouer ?
Bah oui, c'est clair que quand tu as une opération, tu as toujours peur. C'est sûr qu'il me faut un peu de temps. C'est clair que Roland-Garros vient très très vite pour moi, mais il y a toujours le bonheur et le plaisir de jouer ici. C'est quand même le tournoi le plus important pour un joueur français, donc je suis quand même heureux d'y participer. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum.
On a l'impression que la terre battue, Roland-Garros, c'est toujours un peu compliqué pour les Français. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il y a un blocage à chaque fois ?
Bah, il y a des joueurs comme Joe, Gaël Monfils, moi j'ai fait quart de finale, eux ils ont fait demi. Le seul problème, c'est que chaque fois on tombe sur il y a Nadal, Federer, Murray, Djokovic, tout simplement. Le seul problème, c'est eux et c'est nous qui sommes pas certainement qui sommes moins forts qu'eux. À chaque fois, ils nous ont battus, donc c'est ça le gros souci. C'est chaque fois sur les grands matchs pour faire la différence. Ouais. Pour aller en finale ou gagner le tournoi, ils nous ont toujours battus.
Mais c'est technique ou c'est aussi psychologique ? Parce que vous êtes des sportifs de très haut niveau.
Bah, c'est technique. On parle souvent du mental, ce genre de choses. Mais je pense que ils ont tout d'un peu plus fort. Je pense que Federer, tout le monde le sait, techniquement, c'est le meilleur. Ils ont des choses qu'il faut mieux que nous, que ce soit un peu technique, que ce soit physique. Après, tout est un peu lié, mais déjà... C'est de très très grands joueurs de tennis, c'est surtout pour ça qu'ils sont les premiers aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'il a de plus, Federer, en réalité ? Il a 37 ans, il revient après 3 années d'absence, il est encore en forme. C'est une histoire de détermination ?
Le problème, c'est que c'est incomparable. On dit.
Pourquoi ?
Federer, personne ne peut se comparer à lui. C'est certainement c'est le plus grand tennisman de l'histoire, un des plus grands sportifs. C'est sûr que c'est très très dur d'être à cet âge-là aussi fort, donc c'est quelque chose d'incroyable. Donc même si aujourd'hui les joueurs jouent de plus en plus vieux, lui c'est quand même, ça reste une exception et c'est en tout cas un champion incroyable, donc c'est sûr que c'est bien.
Ouais, il est à part en fait.
Oui, il n'y a aucun doute par rapport à ça, personne ne peut se comparer à lui.
Raphaël Nadal qui revient en super forme au bon moment après une victoire à Rome, pour vous qu'il connaissait par cœur puisque vous jouez ensemble depuis l'enfance quasiment, il est bien parti pour un 12e Roland-Garros ?
C'est vrai c'est largement le favori aujourd'hui. Je pense qu'il y a lui, il y a un peu Djokovic derrière, mais pour moi, c'est les deux favoris. C'est clair qu'il y a beaucoup de chances de les retrouver en finale cette année encore. C'est sûr que ça serait encore incroyable de faire un 12e Roland-Garros. Déjà que 11, ça paraît irréel. Donc c'est sûr que 12, ça accentuerait encore la légende. Mais c'est vrai qu'il est encore grandissime favori pour 2019.
Et Richard Gasquet, parmi les jeunes qui commencent à se faire entendre, qui commencent à se faire un nom, est-ce qu'il y en a un qui vous attire plus que d'autres ?
Non, il y a quelques jeunes qui jouent bien. Il y a des deux Canadiens qui sont forts. Il y a Zverev, un grec, là, Tsitsipas, qui est très fort aussi. Ouais. Il y a de très très bons joueurs. Mais malgré ça, je pense qu'il y a les trois meilleurs joueurs de l'histoire qui sont encore là aujourd'hui, que ce soit Djokovic, Federer, Nadal. Je ne pense pas que les joueurs que je parle seront aussi forts qu'un jour, donc peut-être, on verra dans l'avenir, mais en tout cas, c'est pour moi, ces trois joueurs-là, aujourd'hui, sont les trois meilleurs de l'histoire, et ils sont encore dans cette génération, et ils sont encore beaucoup plus forts que les jeunes.
Et vous, Richard Gasquet, quels sont les tennismen qui vous ont fait rêver lorsque vous étiez plus jeune, et qui vous ont donné envie précisément de devenir champion ?
Il y a eu Agassi, Sampras. Moi, quand j'étais jeune, c'est eux qui jouaient. C'est clair que c'est eux qui m'ont fait rêver.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de, surtout jeunes, quand je regardais la télévision à Roland-Garros, quand j'étais dans le sud de la France. C'est sûr que c'est fabuleux aujourd'hui de jouer, de le faire tous les ans. C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Mais malgré ça, c'est vrai que on est quand même dans une belle génération aujourd'hui. Il y a quand même encore ces trois joueurs-là. On a la chance que Federer soit toujours là. Et c'est vrai que ça va faire une belle édition cette année à Roland-Garros.
Et puis il y avait à l'époque McEnroe, qui était un peu nerveux, qui insultait les arbitres, qui cassait ses raquettes dans les cours. Et est-ce qu'il lui ressemble un peu l'Australien Nick Kyrgios ? On a vu qu'il injuriait Nadal et Djokovic dans la presse il y a quelques jours.
C'est bien d'avoir un peu de joueurs comme ça. C'est clair que ça manque un petit peu. C'est assez aseptisé aujourd'hui. C'est les règles aussi qui font cela. Mais c'est vrai que lui est un peu différent. Malgré ça, il faut pas quand même qu'il oublie que il va falloir qu'il gagne aussi des grands tournois pour un peu cumuler les deux. Faut pas qu'il soit que dans des choses comme ça, parce que McEnroe quand même,
oui, dans des petites phrases et des opérations de com en fait, c'est
oui,
ça,
hein. que injurier un peu les arbitres ou ce genre de choses. Il va falloir qu'il gagne des grands chelems aussi, et il en a largement la capacité, parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Donc si effectivement il arrive à cumuler les deux choses, ça peut faire partie des plus grands joueurs de tennis de l'ère moderne.
Dernière question, Richard Gasquet, vous qui adorez Wimbledon, est-ce que vous pensez que Roland-Garros devrait aussi imposer une tenue unique pour les joueurs ?
Moi, je pense pas. Je pense qu'on est en 2019 aujourd'hui. Chacun porte ce qu'il veut. On se souvient qu'Agassi, je pense, je ne sais plus en quelle année, il était en short and jean, tout le monde en parle aujourd'hui. Donc, ce genre de choses, je ne pense pas qu'on est en 2019 aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de quoi voilà, changer les tenues. Ce n'est pas non plus incroyable ce que les joueurs portent. Donc, je pense que chacun est libre de se porter ce qu'il veut. Quoi.
Allez, je vous dis plein de bonnes choses pour le tournoi de Roland-Garros qui va commencer. Il y a toujours une magie sur la terre battue.
C'est sûr.
Et
c'est
j'espère
sûr.
Que ça va vous porter en tout cas.
Merci
Richard Gasquet d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, merci,
au revoir. Et on lui souhaite bonne chance à Richard Gasquet qui jouera dimanche contre Mischa Zverev.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, le procès France Télécom, premier face-à-face tendu entre les victimes et les prévenus. Les témoins ont raconté leur descente aux enfers, compte rendu d'audience dans le journal de 8h avec David Doucan. Et puis dans une minute, quand le constructeur BMW, oui, je pensais en anglais.
Mais oui.
Oui, exactement. Faites le départ à la retraite du patron de son rival Mercedes avec beaucoup d'humour. C'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas.
A tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1 et bon réveil. Il est 7h53. Il est 7h56, Nikos Aliagas, c'est l'heure de la petite histoire du jour.
Avec Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va partir en Allemagne. C'est un pays réputé pour ses grosses voitures, évidemment, avec une pub totalement inattendue et vraiment drôle, en fait.
Ouais, et pourtant, ça commence avec une petite larme au coin de l'œil, les amis. Séquence émotion chez Mercedes. Le grand patron, le charismatique Dieter Zetsche, va prendre sa retraite. C'est son dernier jour, oui. Applaudi par les salariés dans le hall de l'entreprise, il fait des selfies, il rend son badge. Un signe de la main à l'usine Mercedes, il monte dans sa limousine, une Mercedes. Son chauffeur le dépose chez lui une dernière fois. Sourire, poignée de main, Dieter Zetsche est seul désormais devant la porte du garage de son pavillon. Vous pensez qu'il est triste ? Non, c'est tout le contraire, il est libre, enfin libre. Et là, on le voit surgir au volant d'un cabriolet BMW électrique. Oui les amis, ce clip larmoyant que je vous raconte depuis 30 secondes, c'est pas une pub pour Mercedes, c'est une pub BMW, on ne le sait qu'à la toute fin, avec ce petit message, merci Dieter Zetsche pour ces années de concurrence si inspirantes. Alors vous pouvez appeler ça un pied de nez, un tacle, ou au contraire un bel hommage. À mon avis, je pense que la vérité se situe un peu entre les deux. En tout cas, c'est fin, c'est drôle. Et bien sûr, c'était pas le vrai Dieter Zetsche qu'on voyait à l'écran.
Ah,
c'était un comédien, un sosie, avec la même moustache blanche, très ressemblant. Bon, faut savoir que les deux marques allemandes, les sœurs ennemies, ont l'habitude de se faire ce genre de blagues. Merci pour votre aimable suggestion, BMW. Là, c'est Mercedes qui répond. Mais nous, on préfère notre SUV 100% électrique. L'électrique, vous avez compris, c'est le champ de bataille des prochaines années. En tout cas, côté humour, c'est déjà bien survolté.
Your star. C'est vous la star ce matin. Bravo Jean-Philippe Ballas. La petite histoire du jour avec un titre. Vous savez quoi ? Demain.
À suivre le journal de David Doucan. Tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Eh oui, et ce congé de fête des mères, je voudrais y revenir d'un mot. Oui. Je voudrais même relativiser. J'ai été peut-être un peu pessimiste sur ce congé qui s'annonce demain et après-demain, grâce aux températures relativement agréables et grâce à la pluie qui ne va pas s'acharner sur les mêmes régions. Donc, certes, c'est pas le paradis, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais aujourd'hui, vendredi, par exemple, c'est pas folichon dans le sud-ouest, mais progressivement, la pluie va atteindre les régions du nord que dans la soirée, donc vous avez un bon répit. Demain samedi, nous n'aurons des orages que sur un axe Midi-Pyrénées, Auvergne, Berry, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Vosges, Alsace. Ailleurs, ça sera pas mal du tout, notamment sur la capitale. Dimanche 26, jour de la fête des mères, ce sera globalement ensoleillé. Pas de ciel limpide,
d'accord.
Mais doux et lumineux, sauf sur l'Alsace, le Jura, la Corse et les Pyrénées. Vous voyez que finalement, tout le monde n'est pas touché au même moment. Et donc, à un moment ou l'autre de ce congé, eh bien, nous allons pouvoir profiter du temps qui ne sera pas trop chaud, mais qui ne sera loin d'être trop frais. Ce mois de mai a été humide, lui, et frais. Et ça nous apporte une réflexion que je vous donnerai tout à l'heure sur l'été qui vient. Car quand en avril et mai, on a eu deux périodes quand même où la pluie s'est bien reconstituée, cela a des conséquences sur l'été qui arrive. J'en parlerai tout à l'heure.
Vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. Merci Laurent Cabrol.
Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi matin. Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour avec vous.
Il ne leur reste que quelques heures pour mobiliser et convaincre. La campagne pour les élections européennes prend fin ce soir à minuit. La journée sera chargée. Le chef du service France d'Europe 1 sera avec nous dès le début de ce journal. Le harcèlement au travail raconté au quotidien. Les parties civiles étaient à la barre hier au procès France Télécom. Témoignage accablant. Le tribunal s'est figé le temps de cette audience. Je vous rappelle
que 35 salariés se sont suicidés entre 2008 et 2009. Et enfin, nous parlerons tennis. Roland-Garros, coup d'envoi dimanche. Notre consultant Cédric Piolina, les idées claires. On aura droit à un choc Nadal-Federer, mais en demi-finale.
Et puis à 8h12, Vincent Herouette, victoire sans appel pour les nationalistes en Inde, Narendra Modi reste au pouvoir. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Pascal Canfin, c'est le numéro 2 de la liste Renaissance.
Europe 1. À vous de téléphoner, à vous d'aller vérifier que vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis vont voter. On compte sur vous, cette campagne pour vous tous, elle commence.
Le Premier ministre en meeting hier soir près d'Orléans, il en appelle aux militants, il n'y a plus une seconde à perdre. On a aussi vu Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne téléphoner directement à des citoyens, le gouvernement à la pression. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour David.
Vous êtes le chef du service France d'Europe 1, la campagne se termine ce soir à minuit et désormais les sondages convergent et promettent tous une courte avance à la liste Rassemblement National sur celle de la majorité.
Oui, hein, comme un sondeur me le disait hier, la dynamique est en ce moment derrière le RN. Mais attention, hein, on parle de 1 à 2 points d'écart, on est donc dans la marge d'erreur. Il y a surtout deux très grosses inconnues, la participation qui s'annonce faible et ce que l'on appelle le vote utile. Mmh. Autrement dit, je ne vote pas pour le parti de mon cœur, mais pour celui qui pourra soit faire barrage ou peser. Du côté d'En Marche, on espère en profiter et c'est pour cela que l'on jette en ce moment même toutes ses forces dans la dernière ligne droite. Mais bien malin, celui qui sait par exemple qui va en profiter le plus à gauche. Est-ce que ce seront les Verts? Est-ce que certains vont vouloir quand même sauver le PS qui pour la première fois de son histoire pourrait ne pas avoir d'élu à Bruxelles? Ce qui rend quand même encore très incertain le résultat de dimanche soir.
Alors je vous parlais du Premier ministre qui a mouillé la chemise. 8 meetings en tout depuis le début de la campagne, mais il y a aussi le président de la République, Emmanuel Macron va s'impliquer à nouveau ce soir et sous une forme originale.
Oui, il va répondre à 18h15 aux questions d'Hugo Travers hein, qui intervient chaque semaine chez Mathieu Béliard sur Europe 1, mais c'est aussi et surtout quand même une star de YouTube, oui. Hugo Travers. Alors le but est clair hein, d'une telle intervention, c'est bien évidemment de parler aux jeunes qui n'ont pas prévu beaucoup de se mobiliser, mais c'est sûrement et surtout, le but, c'est de contourner les règles du CSA. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez, David, ce soir, à partir de 23h59, nous médias, nous n'avons plus le droit de parler de ces élections. Les réseaux sociaux ne sont pas régis par ces règles. Du coup, ces échanges du président de la République vont être visibles tout le week-end et on peut être certain qu'ils vont être particulièrement partagés par les marcheurs.
Eh oui, alors, les autres partis... La journée va être chargée. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Quel est le programme ?
Bon, on a tenté d'être original. Alors, tout le monde tente d'occuper l'espace. Les Républicains, par exemple, misent sur un déjeuner champêtre. Ce sera à côté de Perpignan. La France Insoumise va sortir son holovan à Lille. Ce sont des camions avec des hologrammes, notamment de Jean-Luc Mélenchon, avant un grand meeting avec cette fois, bien évidemment, tout le monde en chair et en os. Le PS tente aussi l'originalité. Il a opté pour un meeting sur une péniche ce soir à Paris. La plupart des meetings vont débuter un tout petit peu plus tôt que d'habitude pour espérer des images dans les journaux de 20h. RN a aussi bousculé son agenda. Marine Le Pen et Jordan Bardella vont tenir à 15h une conférence de presse à Hénin-Beaumont. C'est le fief de Marine Le Pen et il y aura également un grand meeting ensuite sur place.
Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Merci Emmanuel. Alors le Rassemblement National, justement, vous en parliez Emmanuel, il fait l'objet d'une décision de la justice européenne. Marine Le Pen elle-même devra rembourser 300 000 euros dans l'affaire des assistants parlementaires présumés fictifs. Juste avant le vote de dimanche, on peut imaginer que cette affaire tombe mal, mais les cadres du RN affichent une sérénité totale. Adrien Beck.
On s'en fout complètement. Pour ce stratège de la campagne du RN, la décision de la justice européenne n'aura aucun impact négatif sur les intentions de vote. Bien au contraire, dit-il, ça va encore plus mobiliser nos électeurs. Pour cela, le parti joue à fond la carte de la victimisation. « Je vous avais prévenu que rien ne nous serait épargné », a lancé Marine Le Pen sur Twitter. Dans son équipe, on s'étonne de décisions de justice qui tombent à 24 heures de la fin de la campagne. « Magouille judiciaire », clame un de ses proches. Et stratégie efficace. Ceux qui votent RN peuvent être renforcés dans leur conviction qu'ils ont tout le monde contre eux, analyse un spécialiste de l'opinion. Un pacte dans l'électorat d'autant moins fort que plusieurs cadres du parti, dont la présidente, sont mis en cause dans l'affaire des assistants parlementaires depuis 3 ans. En mars 2017, la convocation de Marine Le Pen devant la justice dans cette même affaire ne l'avait en effet pas empêché de se hisser au second tour de la présidentielle.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Alors attention pour ceux qui s'adonnent aux pronostics, les élections européennes peuvent réserver des surprises. Les Hollandais votaient hier et contre toute attente, les partis pro-européens et notamment les travaillistes sont sortis vainqueurs du scrutin. Ils ont déjoué les sondages qui annonçaient tous une percée des populistes.
Le procès de France Télécom, les premiers témoignages entendus hier.
Oui, lorsque le harcèlement moral est raconté sans filtre par les victimes elles-mêmes, ou leur famille, puisque je vous rappelle que 35 salariés de cette entreprise se sont suicidés entre 2008 et 2009. L'audience d'hier ne pouvait laisser personne indifférent. Chloé Triomphe.
À la barre, c'est une veuve à l'allure soignée qui vient livrer son témoignage tout en retenue. Car Michel, son mari, était comme ça, explique-t-elle. Il était discret. Mais après son changement de poste, il a fait demi-tour un matin sur le chemin du travail et est rentré chez lui se suicider.
C'est une victime invisible parce que je crois que dans son cas, comme dans beaucoup d'autres, la fragilisation de tous ses personnels, elle s'est faite de manière très insidieuse au sein de cette entreprise, silencieuse, sans faire beaucoup de bruit, jusqu'à ce que tout ça éclate avec les suicides de 2007 et 2008. Michel, c'est quelqu'un en qui tout le monde avait une grande confiance et je pense que parmi tous nos amis, tout notre entourage familial, jamais personne n'aurait pu imaginer ce geste, jamais.
Et si Marie-Pierre est venue au procès, c'est aussi pour tous les autres, les absents et les survivants, comme Guy qui, hier, s'excusait de ses propos confus à cause des antidépresseurs, ou Daniel, resté 13 mois chez lui, payé mais privé de poste, comme un parasite, explique-t-il encore meurtri, des témoignages qui vont se succéder pendant plusieurs semaines.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. En Nouvelle-Calédonie, c'est un indépendantiste qui a été élu à la tête du Congrès, c'est l'équivalent d'une assemblée territoriale. Roch Wamitan en devient donc le président. C'est un poste important puisque l'accord de Nouméa permet la possible organisation de nouveaux référendums sur l'indépendance. Taïwan est entré dans l'histoire cette nuit. L'île indépendante a pour la première fois en Asie célébré des mariages homosexuels. Les autorités taïwanaises avaient adopté la semaine dernière une loi autorisant ces unions.
Europe 1.
À suivre dans le journal Roland Garros, le tournoi qui commence dimanche. Vous entendrez dans un instant notre consultant Cédric Pioline. Il anticipe une belle édition cette année. À tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec vous, David Doucan. Vous aimez la terre battue ?
Eh oui, j'adore. Et vous ?
Ça tombe bien, nous aussi, ça commence dimanche.
Oui, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Les tirages au sort ont eu lieu hier. Raphaël Nadal et Roger Federer sont dans le même tableau. Pour notre consultant Cédric Pioline, les deux joueurs sont en forme et on commence par Nadal.
Il arrive ici, on l'a vu, détendu parce que il a un tel historique positif ici que forcément il a toutes ces bonnes vibrations qui remontent.
Roger Federer qui se trouve dans sa partie de tableau, mais pas de confrontation avant une éventuelle demi-finale.
Oui, c'est sûr, même si Nadal lui a été assez épargné, je dirais, en termes de tête de série très forte. Federer, par contre, il faudra quand même qu'il se ferait un chemin jusque là-bas, avec Tsitsipas aussi, qui est dans la partie haute du bas du tableau.
Cédric Pioline avec Corinne Boulou pour Europe 1.
Tsitsipas, vous dites. Roland Garros, donc, avec le Festival de Cannes qui se termine.
Eh oui, mon cher Nico, c'est l'ordre des choses. Chaque année, c'est comme ça. Nous connaîtrons le palmarès à Cannes demain soir. Nous vous parlons d'une actrice qui est favorite pour le prix d'interprétation féminine. J'ai nommé Adèle Haenel. Elle apparaît dans 3 films en compétition. Son portrait est signé Virginie Salmen.
Adèle Haenel, c'est une femme brute, une trentenaire aux cheveux souples, dorés, aux yeux de chat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne joue pas de sa féminité. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, par exemple, conduire un vieux van dans l'un des films qu'elle présente à Cannes.
Ouais, c'est moi qui conduisais tout le temps. En fait, je fais souvent chier pour conduire, parce que j'aime bien conduire. Et après, les gens râlent parce qu'ils trouvent que je conduis mal, mais moi, je trouve que je conduis très bien. Donc voilà. J'étais en surcrispation, parce qu'en fait, c'est assez dur de jouer et en même temps de conduire.
Une gouaille et un franc-parler assez rares chez les actrices. Adèle Haenel a éclos par le regard d'une femme en particulier, la réalisatrice Céline Sciamma, qui a été sa compagne et lui a offert son premier rôle, qu'elle remercie avec une émotion qui la déborde un soir de 2014 où elle reçoit le César du meilleur espoir féminin.
Je voulais remercier Céline parce que je l'aime, voilà.
C'est l'une des rares portes entrouvertes sur sa vie privée. Jean Dujardin, qui vient de tourner avec elle dans Le Dain, n'a pas réussi à percer le mystère.
Adèle dégage quelque chose de très puissant et très animal.
Vous la connaissiez avant le
non, pas tourner avec elle ? Non, pas du tout. Je crois que je la connais pas plus.
L'an dernier, c'est avec une comédie, En Liberté, qu'elle avait emballé la croisette. Cette fois, un drame en costume, portrait de la jeune fille en feu, une palette de jeux impressionnante pour une actrice d'à peine 30 ans.
Virginie Salmen, l'une des envoyées spéciales à Cannes pour Europe 1.
Allez-vous préparer ou ils vous attendent sur le tapis rouge, ouais, pour la clôture.
C'est prévu. Oh, la chance. C'est prévu.
Vous avez le smoking ou
non, vous me le prêtez.
C'est Mida qui loue des smokings, je vous dirai comment. Merci beaucoup. C'était le journal de 8h présenté par David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nico
Saliagas. Et il est 8h11. Coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec, comme chaque matin, Vincent Hervouet.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour à tous.
Le plus grand scrutin démocratique, le plus grand vote de l'histoire de l'humanité. Attention, je pèse mes mots, ce n'est pas l'élection du Parlement européen dimanche prochain. En fait, c'était l'élection des députés indiens 900 millions d'inscrits qui ont fait un triomphe aux nationalistes.
Oui, c'est un raz-de-marée safran, la couleur du BJP. Le parti du Premier ministre truste 60% des sièges. Quand on est hindouiste, on aime le safran qui assaisonne le riz, qui teinte la robe des moines et drôle de petits bonbons au lait, qui est le symbole sur le drapeau du courage et du désintéressement. Quand on est hindouiste, on adore Narendra Modi qui a mille qualités, notamment le courage, et qui a fait don de sa personne à la nouvelle Inde qui sera demain l'une des plus grandes puissances de la planète, et ce sera grâce à lui. Le safran, c'est la fierté retrouvée des hindouistes. Et ces élections, un référendum pour ou contre Modi. Il était partout, sur les murs, sur les écrans, dans les boutiques et dans les têtes, un vrai culte de la personnalité. Il ne donne pas d'interview, il tweet comme Donald Trump. Il a 48 millions de followers et il veut rendre sa grandeur à son pays. Et lui aussi garde le soutien de l'électorat populaire. Il lui parle en hindi, pas en anglais. Et ce fils donc d'un modeste marchand de thé a triomphé de l'establishment. Il a écrasé les partis régionaux des grands féodaux. Il a laminé hier le parti du Congrès, la gauche historique. Rahul Gandhi, fils, petit-fils, arrière-petit-fils de Premier ministre, a même été vaincu dans le fief de la dynastie en Uttar Pradesh. Modi, c'est une lame de fond. Il y a 4 ans, il s'était fait élire en promettant la fin de la misère et de la corruption. Il a au moins construit des toilettes et jugulé l'inflation.
En tout cas, cette année, il a fait une campagne au canon.
Oui, il y a 3 mois, un attentat islamiste au Cachemire a tué 40 soldats. Modi a répliqué en bombardant le QG des terroristes au Pakistan. La campagne était lancée. Elle a tourné autour de la menace que fait peser le voisin musulman auquel les Indiens ont déjà fait 3 fois la guerre. Alors évidemment, en Europe, Modi est Modi. Avec son discours ethnique et son national-populisme, il porte bien son nom. On s'inquiète pour les minorités, les chrétiens et surtout les musulmans. On s'inquiète pour l'état de droit, puisque règne la droite. Mais on voit que la mondialisation fait partout émerger des hommes forts qui défient les élites et qui parlent au nom du peuple, qui lui jurent qu'on peut garder son mode de vie et avoir un monde meilleur, qui lui désigne l'ennemi et qui occupe les esprits. Le populisme, c'est l'autre face de la mondialisation.
Vincent Hervouette, son point de vue, son édito international tous les jours dans la matinale.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Restez avec nous dans 2 minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Bonjour Audrey.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Qui est votre invité ?
Eh bien, la priorité numéro 1 d'Emmanuel Macron, nous dit-on, c'est l'écologie. Eh bien, c'est lui qui en est l'incarnation, ou pour ses adversaires, la simple caution. Pascal Canfin, numéro 2 de la liste La République En Marche, juste derrière Nathalie Loiseau, sera mon invité.
A tout de suite.
Très belle matinée sur Europe 1, il est 8h14. Il est 8h16, Nico Saliagas.
Pascal Canfin, le numéro 2 de la liste Renaissance aux élections européennes, et votre invité ce matin, André Crespo-Mara.
Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Alors après le grand débat pour faire sa campagne, Emmanuel Macron a inauguré le Conseil de défense écologique à 3 jours des européennes. C'est un beaucoup de com.
Vous savez, moi ça m'agace les réactions politiques. D'ailleurs j'ai hésité à me réinvestir en politique précisément à cause de ça.
Vos adversaires les dénoncent écologistes... de l'opportunisme voilà. électoral à 3 jours des européennes.
Quand le gouvernement n'agit pas, les écologistes critiquent, et pour le coup à juste titre. Quand le gouvernement agit, par exemple dit non, on arrête le projet Montagne d'Or, qui était le projet de plus grande mine industrielle d'or jamais faite en France, en Guyane, au cœur de l'Amazonie française, et on dit stop, les écologistes devraient se réjouir.
Ils disent à 3 jours des élections, c'est donc, quand même un peu gros, c'est critique. Par hasard de calendrier.
Quand le gouvernement agit avant les élections, critique. Et si on avait fait le Conseil de défense écologique après les élections, quelle aurait été leur réaction pavlovienne? Ils auraient dit, vous le cachez parce que vous n'osez pas le faire avant les élections. Donc il faut arrêter la critique politicienne et il faut agir. Moi je défends une écologie utile qui par exemple arrête, et c'est officiel, ce type de projet.
Yannick Jadot, qui est tête de liste Europe Écologie Les Verts, dit quelque chose d'assez convaincant. Il dit, il y a un Conseil des ministres qui toutes les semaines peut agir pour l'environnement.
Vous savez, Nicolas Hulot, c'est quand il est sorti du gouvernement, il a dit, il m'a manqué une chose. Une chose, c'est ce Conseil de défense écologique qui se réunit régulièrement avec les 7-8 ministres concernés et qui se met en mode commando. Et je suis absolument certain qu'il saluera. Mais le prochain, c'est en juillet. Il n'y a pas d'élection en juillet. Puis le prochain, c'est en septembre. Il n'y a pas d'élection en septembre. Donc l'urgence climatique, c'est maintenant. Pourquoi attendre? Ce serait absurde.
Prenons un exemple précis. Vous dites qu'il est absurde de taxer le carburant des voitures alors qu'on ne taxe pas celui des avions. Alors pourquoi le tout nouveau Conseil de défense écologique n'a-t-il pas décidé d'une taxe sur le kérosène?
Parce qu'on la porte au niveau européen d'abord, parce que tout le monde comprend que l'aviation, c'est continental, que la bonne échelle pour agir, c'est l'Europe. Puis si on on n'y arrive pas à 27 au niveau européen, alors on le fera avec les pays européens qui le veulent, la Suède, les Pays-Bas et d'autres, l'Allemagne j'espère, mais on le fera évidemment parce que c'est le sens de l'histoire, mais on ne veut pas le faire tout seul, puisque si on veut avoir un impact, précisément il faut le faire avec les autres.
Alors c'est dans votre programme des européennes, vous promettez de taxer le kérosène, pourtant cette semaine à l'Assemblée nationale, La République En Marche a rejeté un amendement pour taxer le kérosène, a rejeté l'amendement, donc le et en même temps, on a l'impression que c'est un double discours.
C'est exactement ce que je viens de vous dire, madame. C'est, on le fait d'abord au niveau européen, parce que c'est
oui,
du bon sens.
Pourquoi le rejeter ?
Mais parce qu'on le fait au niveau européen, je peux vous le dire trois fois, on le porte d'abord au niveau européen, parce que l'avion, c'est continental, d'accord ? Donc, on le veut le faire ensemble. Et si ça ne marche pas au niveau européen, alors on le fera avec les autres pays européens qui le souhaitent, donc aussi au niveau national. C'est ça la bonne méthode politique pour avancer et avoir de l'impact et être utile.
C'est l'occasion d'avoir une pensée pour Jacques Chirac. Il a laissé son nom à une taxe sur les billets d'avion. Pourquoi ne pas taxer les billets première classe pour financer la transition écologique ?
Depuis qu'on parle d'écologie, vous m'avez prononcé le mot 17 fois taxe. Moi, je défends par exemple une banque du climat qui va investir dans les territoires pour la méthanisation, pour les agriculteurs, pour développer les énergies renouvelables sur les territoires. Ça, c'est une banque qui fait des investissements, qui investit dans les solutions. Moi, je défends pas une écologie des taxes, mais une écologie des solutions. On a toutes les solutions à portée de main. On sait tout faire. Nos entreprises françaises particulièrement savent tout faire. On a des leaders mondiaux de cette transition. Donc maintenant, on y va. Mais pour y aller, il faut être utile, il faut peser au cœur de l'Europe. Et c'est bien ça l'enjeu des élections de dimanche.
Pascal Canfin, lors du meeting à Bobino, Daniel Cohn-Bendit a recommandé de ne pas dire de mal de Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie
oui,
Les Verts.
Je pense que c'était surtout quelque chose qui s'appliquait à Yannick
Alors,
Jadot.
Car ce sera bientôt un allié au Parlement européen. Alors, quand Yannick Jadot vous accuse de trahir l'écologie, vous faites quoi ? Vous baissez les yeux ? Vous répondez pas ?
Mais pas du tout. Moi, au contraire, je suis extrêmement fier du fait que nous allons peser au Parlement européen. On n'est pas dans l'incantation, on n'est pas dans la minorité sympathique et dans la niche sympathique, mais qui ne pèse
Yannick
pas
Jadot
demain
est dans
au
une
Parlement
niche sympathique.
Européen. Ben écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il sera dans la minorité demain. C'est-à-dire qu'une voix pour Europe Écologie Les Verts demain, peut-être que ça n'aura strictement aucun impact, aucune influence, comme d'ailleurs de l'autre côté du spectre, et je ne mélange pas les deux, une voix pour le Front National n'a aucun impact pour renforcer le poids de la France. Au contraire, ça l'affaiblit.
Aujourd'hui, vous défendez l'écologie ou vous défendez Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ?
Je défends le climat. Et les deux, pourquoi ? Parce que si vous croyez que c'est en détruisant l'Europe qu'on va progresser vers la lutte contre le dérèglement climatique, je pense que ça, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil. Mmh. Et donc, je défends, depuis que je suis petit, l'Europe, parce que c'est mon combat, c'est ma génération. La détruire, la perdre, ce serait une catastrophe. Et je défends l'écologie, parce que toute la jeunesse nous le dit aujourd'hui, c'est l'urgence absolue. Mmh. C'est pour ça que c'est la première priorité de notre projet. C'est pour ça qu'on a tenu ce conseil de défense écologique. C'est maintenant qu'on agit.
Même si Emmanuel Macron n'est pas vraiment écolo, vous le soutenez comme le meilleur rempart face à l'extrême droite.
Aussi, hein, je veux dire, il y a plein de candidats, plein de listes dans la société française qui combattent le Front National et les idées d'extrême droite. Mais les seuls qui peuvent les battre, c'est nous.
En septembre dernier, quand vous parliez d'Emmanuel Macron, vous disiez il est pro-mine, pro-nucléaire, ouais. Pro-gaz de schiste,
à l'époque.
Pro-OGM. C'était en septembre.
Ne caricaturez pas cette citation. C'est une situation que j'ai faite en septembre, oui. En 2012. Je le connais depuis 2012, Emmanuel Macron. En 2012, c'était cette personne-là. Et c'est un président qui est en transition, comme la société est en transition. Et donc, finalement, il suit la société dans son évolution. Et maintenant, il est en train de l'attirer. Par exemple, les évolutions qu'on est en train de faire. Hier, 1 milliard de plus pour isoler les lycées, les écoles, les collèges, pour que nos enfants vivent dans des bâtiments qui soient meilleurs pour le climat lorsqu'ils étudient. 1 milliard de plus pour isoler les bâtiments publics. 1 milliard de plus, 2 milliards pour les transports du quotidien, les petites lignes de la SNCF, les trams, les bus, le vélo, le covoiturage. C'est extraordinairement concret ce qui a été annoncé hier, parce que l'action c'est maintenant, et j'y ai contribué et j'en suis fier.
Donc vous me dites Emmanuel Macron est en transition écologique, oui. Ça veut dire que quand Nicolas Hulot a démissionné à la rentrée dernière, oui. C'était hier, hein.
Qu'il a bougé parce que la société a beaucoup bougé sur ces sujets. Et je crois qu'au fond, c'est très bien d'avoir un président de la République qui est au barycentre, en quelque sorte, de l'évolution de la société. Et nous, on veut réconcilier. On n'est pas dans une écologie d'injonction et de taxes, comme vous le disiez. Au contraire, on est dans une écologie qui veut rassembler et réconcilier. Parce que si on veut mobiliser la société, si on veut transformer les entreprises, si on veut modifier les modèles agricoles, il faut le faire
en tapant, en clivant et en étant contre, ou au contraire, il faut le faire en rassemblant et en fédérant. Ben moi, ma ligne, elle est très claire, c'est en fédérant qu'on va faire bouger les lignes, et c'est ça le cœur de l'ADN, en quelque sorte, de la liste Renaissance.
Mais ça aussi, c'est une transition nouvelle, parce que la taxe sur les carburants, c'est le début de la crise des Gilets jaunes, c'était en novembre dernier.
Donc tout c'est... à fait, c'était peut-être excessif dans le rythme, c'est possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la réalité de la société, ça n'a pas été compris. Et donc, bah, il faut faire autre chose. Et ce qu'on fait autre chose, ça passe évidemment par l'action du gouvernement, on en a donné la preuve hier, mais aussi l'action européenne. Parce que, contrairement à ce que dit, par exemple, de manière assez bizarre, le Front National, l'écologie ne connaît pas les frontières. Le CO2, ça ne connaît pas les frontières. Donc la bonne action, c'est l'échelle continentale à 500 millions d'Européens pour changer les choses.
Pascal Canfin, que répondez-vous à ceux qui ne voient en vous que la caution écolo d'un président qui ne l'est guère ?
Ben, je crois que ça, c'est vraiment en train de changer. Moi, si je ne serais pas venu sur cette liste si je n'avais pas eu la garantie que la première priorité de cette liste et de ce projet européen n'avait pas été l'écologie. Est-ce que c'est le cas ? Oui.
Ce sont des paroles.
Non, ouais. C'est le projet, d'accord, c'est l'engagement. Dès le mois de juin, je vais vous dire, moi je suis encore une fois, mon engagement c'est l'utilité, c'est l'action. Dès le mois de juin, nous ferons une proposition de Banque pour le Climat, hein, proposition numéro 1 de notre projet, dès le mois de juin, donc dans quelques semaines, à nos partenaires européens. On est déjà dans l'action parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et quand je vois à l'inverse que la première proposition d'Europe Écologie Les Verts, d'Yannick Jadot, c'est de faire une modification des traités européens pour faire un traité environnemental. Je dis, mais c'est absurde. Est-ce qu'on peut réformer la PAC avec les traités actuels ? Oui. Est-ce qu'on peut mettre du climat dans les accords commerciaux à traités actuels ? Oui. Donc, il faut agir maintenant et pas se perdre dans des négociations nouvelles pour un nouveau traité.
Donc, vous récupérez les bulletins Jadot, en gros. C'est ce que vous nous dites.
Ah bah, moi, je vais partout là où c'est utile. Et il y a évidemment des électeurs qui hésitent entre les deux. C'est la réalité. Et c'est pour ça qu'on s'engage. Parce que moi, je leur dis, votre vote de dimanche, il est fondamental. Il doit défendre d'une écologie utile et pas une écologie perdue.
Eh bien, merci Pascal Canfin.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Pascal Canfin, numéro 2 de la liste Renaissance aux élections européennes. Et puis Jean Nouvel, l'architecte Jean Nouvel sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Ça sera dimanche de 10h à 11h sur notre antenne.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 8h25.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et l'essentiel de l'info. 8h30, la revue de presse avec David Abicaire. 8h35, le journal du Festival de Cannes. Depuis la Croisette pour ce dernier jour avec Mathieu Charrier.
À suivre l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite Laurent Cabrol pour la météo, Nikos.
Vous voulez pas me dire ce qu'il fera cet été ? Je sais pas, comme ça j'ai eu un flash ce matin.
Non, alors bon, si l'on prend comme principe que la météo pour ressembler à un four de la ménagère, celui qui est dans la cuisine,
d'accord.
On sait que pour que l'été soit chaud, il faut que le four soit brûlant, et d'accord. Pour que les fours soient brûlants, il faut que l'on ait un préchauffage assez conséquent.
D'accord.
Le préchauffage, c'est le printemps, c'est avril-mai. Nous avons eu un printemps, avril-mai, qui a été relativement humide et relativement frais, et donc ce printemps nous a permis d'avoir un préchauffage de petite intensité. Résultat, on peut imaginer, avec toutes les précautions du monde, que l'été qui arrive sera un été sans canicule type 2003.
Ça, c'est
une
pas mal.
Première certitude. Et une deuxième certitude, ce sera un été qui se devrait être dans la norme classique de ce que l'on connaît en général dans les étés de nos livres de grammaire. Non, nos livres de géographie. Voilà.
D'accord. Le livre de cuisine.
Bon, aujourd'hui, un mot pour dire qu'il pleut beaucoup dans le sud-ouest, foutez-vous de moi. Et puis, et après, la pluie va grimper, vers le nord de la France, et puis elle atteindra Champagne-Ardenne, l'Orléanais, la Bourgogne, même l'Alsace, dans le courant de la soirée. Donc voilà, c'est une journée pas folichonne, mais demain, je vous l'ai dit, demain et après-demain, il y aura toujours des trouées chez vous, probablement, chers amis, et vous allez pouvoir profiter des festivités de ce week-end.
La douceur s'installe. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
7h, 9h. 2 heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le vendredi 24 mai, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Dernières heures pour convaincre les électeurs avant le vote des européennes de ce dimanche. La campagne prend fin à minuit. Aujourd'hui, on vote en Irlande et en République tchèque. Emmanuel Macron, lui, sera face à Hugo Travers, un youtubeur. Il est tous les mardis chez Mathieu Béliard dans le Grand Journal du Soir. L'échange devrait durer 45 minutes. Et puis, nouvelle journée de mobilisation pour le climat. Des marches sont prévues dans plusieurs villes de France. Paris, Bordeaux, Nantes,
Nantes, Nancy ou encore Marseille. Et de nouvelles révélations dans l'enquête sur l'anesthésiste de Besançon. Le docteur Péchier aurait essayé d'empoisonner l'une de ses collègues lors d'une opération il y a 3 ans. Et le docteur Péchier est mis en examen déjà pour 24 empoisonnements, dont 9 qui ont entraîné la mort. Dernière journée de Ligue 1 ce soir. 4 clubs sont à la lutte pour rester dans l'élite. Multiplex en direct sur Europe 1 dès 20h avec Lionel Rousseau.
Europe 1. Il est 8h31, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une ce matin, un coq et un éléphant. On dirait presque une fable de La Fontaine.
On écoute le coq, on y est presque.
J'ai essayé de combler le vide.
Ouais, je préfère l'original. Qu'il est doux, non pas le chant du Nikos à l'aube, mais le chant du coq. Qu'elle sonne bien les cloches de nos églises, qu'elle meugle tendrement les vaches de nos pâturages. Le maire de Cajac en Gironde explique ce matin, Le Figaro entend protéger les bruits des zones rurales et veut qu'ils soient inscrits au patrimoine de l'UNESCO, car ils font partie du patrimoine sonore de nos terroirs. À la une de ce même Figaro, un éléphant du Botswana dont le gouvernement vient de réautoriser la chasse, provoquant l'inquiétude des écologistes. Le chant du coq et l'éléphant du Botswana menacés nous invitent à enjamber les éditos qui ce matin n'ont qu'une obsession, l'affrontement électoral entre La République En Marche et le Rassemblement National. Alors qu'aujourd'hui et demain, on marchera pour le climat et au lendemain du premier conseil de défense écologique, il reste encore dans la presse et ses élections européennes Une place pour l'écologie.
Et les journaux s'interrogent ce matin sur la sincérité des convictions écologiques du président.
Dans Le Républicain lorrain, Xavier Brouet se demande si les électeurs préféreront l'original ou la copie. En clair, si Jadot pourra imposer sa boutique écolo à gauche ou si l'enterrement hier du projet d'extraction aurifère en Guyane par le Conseil de défense écologique séduira les électeurs à 3 jours du scrutin européen. Comment faire le tri entre conviction et opportunisme politique, se demande Bernard Stéphane dans La Montagne. Et qui dit tri, dit récup. Récupération difficile pour Philippe Marcassis de l'Est républicain de croire au virage écolo de Macron qui a fait sienne la cause de l'urgence climatique mais ressemble à un converti de la 25e heure. Pourtant, si vous lisez Le Monde, l'engagement écologique commence désormais au berceau ou presque. Naissance d'une génération climat, titre Le Monde, une génération qui aujourd'hui et demain mettra la pression sur les candidats aux élections européennes avec ses slogans du genre « Plus tard, je veux être vivant » ou encore « Je ferai mes devoirs quand vous ferez les vôtres ». C'est bien joli de parler de génération climat, mais dans Le Figaro, il y a un chiffre qui calme beaucoup même, c'est celui de l'abstention des jeunes. 70% des 18-34 ans pourraient ne pas voter. C'est compliqué d'influencer une élection dans le sens de l'écologie sans voter. Ceci dit, les jeunes pousses vertes ont une excuse, beaucoup ont moins de 18 ans, ça n'aide pas à aller aux urnes.
En tout cas, les jeunes, les plus jeunes viennent au secours de la planète et c'est à eux que s'intéresse une magnifique revue, c'est la revue Oui Demain.
Les enfants à l'assaut du vieux monde, voilà un titre qui plaira à Macron, l'écologiste en transition, comme l'appelait il y a quelques jours Pascal Canfin, qui vient de quitter ce studio. Flore Vasseur, essayiste et documentariste, prépare avec Marion Cotillard un film sur les activistes de moins de 18 ans. Les activistes de moins de 18 ans, 85% de cette génération ne vit pas en Occident, explique-t-elle à Oui Demain. Elle vit là où le monde subit les guerres, les migrations climatiques ou les catastrophes écologiques. Ces jeunes ont par ailleurs une très grande capacité à se connecter entre eux, savent utiliser les médias qui les utilisent aussi et contrairement à leurs aînés, ils savent s'amuser en militant. Parmi eux, Marie Finn, 17 ans, secouriste sur l'Aquarius. Mohamed Aljoun, 12 ans, qui crée une école pour les réfugiés. Memori Banda, 15 ans, lutte contre le mariage des mineurs au sud Malawi. Melati et Isabelle, 12 et 10 ans, en guerre contre les déchets plastiques à Bali. Ou encore Matsuki Kamoshita, 16 ans, voix des enfants de Fukushima. Jeunes ambassadeurs de la catastrophe climatique, enfant passeur de messages ou intervieweur de président tel le youtubeur Hugo Travers, 22 ans, qui lui interviewera ce soir le président de la République sur les enjeux de l'élection européenne. On a toujours besoin d'un jeune ou d'un enfant pour dire combien on est déterminé à changer le monde. Dernier exemple dans le Paris Match paru mercredi avec Louis, fils du prince William et de Kate Middleton. Louis photographié pour la première fois depuis son baptême dans un jardin éphémère, pensé par la duchesse de Cambridge pour inciter les Anglais à prendre l'air. Rien ne vaut un bébé pour communiquer et rappeler que l'écologie est une valeur qui n'attend point le nombre des années.
Merci David Abiker, c'était votre revue de presse pour bien clore ce vendredi.
Il est 8h35, on part à Cannes comme chaque matin. Nico se retrouvait Mathieu Charrier qui suit pour Europe 1 le festival.
Europe 1, le journal du festival.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, qu'est-ce que vous avez de bon ?
Les deux derniers films français en compétition, celui d'Abdelatif Kechiche et de Justine Triet, porté par Virginie Efira. Nous entendrons aussi Thierry Frémaux pour un premier bilan de ce festival, il faut le dire très réussi. Et puis les indiscrétions, je vous parlerai du prochain film de Valérie Bonneton.
Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça.
C'est donc Virginie Efira qui va illuminer le tapis rouge ce soir.
Oui, aux côtés d'Adèle Exarchopoulos pour présenter le dernier film français en compétition, Sybille, signé Justine Triet, qui avait notamment fait Victoria, déjà avec Efira. Alors cette fois, l'actrice joue une psy qui décide de tout plaquer pour écrire. Lorsqu'une ultime patiente la contacte, c'est Adèle Exarchopoulos. En plein tournage, elle est tombée enceinte de l'acteur principal, lui-même marié à la réalisatrice du film. L'occasion pour Sybille d'essayer de reprendre possession de sa vie, une situation qu'a connue Virginie Efira.
Je me souviens d'un moment comme ça où j'étais à Paris, puis les choses étaient chouettes quand même, je commençais à jouer au théâtre. Pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait du coton entre moi et le monde, quoi. Comme si t'essayais de plus de fonctionner ou d'avancer en disant « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» Ben, je vais répondre à ça. Et tu t'en rends pas vraiment compte, mais ça crée une distance qui aurait comme une partie explorée encore, qui chez elle passe du coup par le désir d'écrire. Elle qui écoute beaucoup les autres, c'est comme si elle voulait rentrer dans l'action.
Mmh. Voilà, Sybille franchement réussie qui clôture ce soir les projections des 5 films français en compétition à Cannes et qui sort également aujourd'hui dans les salles.
Et hier soir, c'est Abdelatif Kechiche qui était de retour sur la croisette 6 ans après sa Palme d'Or pour La Vie d'Adèle.
Oui, il présentait Make to My Love Intermezzo, suite de Canto Uno, sorti l'année dernière, dans lesquels il explore les désirs de la jeunesse en été à 7. Sauf que ce deuxième volet, qui dure 3h28, se déroule pendant près de 3 heures dans une boîte de nuit, où à part voir des corps s'agiter, il ne se passe pas grand-chose. Une scène de sexe non simulée essaie d'impressionner le spectateur, mais franchement, ça ne marche pas vraiment. Mm-hmm. Bref, c'est raté.
Alors, il reste encore 2 films à présenter aujourd'hui, mais on peut déjà tirer un premier bilan de cette édition, Mathieu.
Oui, réussi, Nikos. D'abord, j'aimerais pas être dans le jury et devoir trancher entre le Almodovar, le Ken Loach, le Bon Jungo, le Siama, sélection extraordinaire. Et puis du glamour aussi sur le tapis rouge. Une réussite donc sans Netflix, se félicite le délégué général Thierry Frémaux.
Il y a des années comme ça où en effet les planètes s'alignent pour que tout le monde soit content. Mais l'évolution que le festival prend cette année, dans les convictions qu'il affiche en matière d'exploitation des films dans les salles, ça, ce sont des convictions qui, je crois, sont comprises de plus en plus. En 2020, on fêtera les 125 ans de la naissance du cinématographe Lumière, donc c'est quelque chose qui marche encore très très bien.
Et cérémonie de clôture donc de ce festival demain soir à partir de 19h15.
Et puisque les planètes s'alignent, mon cher Mathieu, quelles sont vos indiscrétions ce matin ?
Alors déjà, rassurez-vous Nikos, la glace géante, sorte de bâtonnet 2 mètres de long et 20 kilos qui avait été volée sur la plage Magnum, a été retrouvée. La croisette était très inquiète hein, depuis qu'il a disparu dans la nuit de samedi à dimanche, visiblement emportée par des gens qui avaient un petit peu trop bu.
Bon, il n'y a pas de gens sous à Cannes pendant le festival.
Non, jamais. Et puis Valérie Bonneton va tourner dans un premier film écrit par Samir Bouadi, chroniqueur et humoriste. Elle jouera une femme tombant amoureuse de son voisin du dessus, c'est Thierry Lhermitte, un scientifique spécialisé dans les insectes. Ce film sera une comédie.
En tout cas, Mathieu Charrier, bravo pour la couverture de ce Festival des Cannes. Vous rentrez quand à Paris ?
Dimanche. Rendez-vous demain pour le palmarès.
Ok, ben recouchez-vous.
Salut Nikos.
À dimanche, salut.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Attention, il arrive pour son grand raout et sans aucun doute, il va envoyer du lourd. C'est Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. À tout de suite, les
Très
amis.
Très belle matinée sur Europe 1, il est 8h39. Il est 8h42.
Vous êtes peut-être en voiture, vous êtes dans le bus en train d'écouter et d'attendre Nicolas Canteloup avec vos écouteurs. Vous êtes à la maison tout simplement, en tous les cas vous avez frappé à la bonne porte. Voici la revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, c'est parti avec vous, Nikos. On va revenir sur le titre principal de l'info.
Ouais, ma chère Julie, bonjour à tous. Cocorico. Attends, tiens, je vais faire le coq. Mais ça y est, comme ça chez y est. David Abika. Voilà, c'est un coq grec. Voilà.
Et je dors. Franchement, monsieur Aliagas, quelle imitation.
Nul.
Non, vous êtes le Patrick Sébastien de la forêt. Venez, je vous invite à la maison, monsieur Agas, faire un spectacle pour les marcassins, les belettes. Ce sera formidable.
Oui, merci, merci, monsieur Lassalle. Il attendait son jingle, il n'était pas là, j'ai essayé d'improviser. Pardon.
Voilà, voilà. Vous savez, les gens écoutent l'antenne depuis 5h du matin, ils ont tout entendu. Merci en tout cas, monsieur Lassalle. L'actu de ce matin, c'est, chers auditeurs, la dernière journée de campagne des européennes. Et ce matin, Europe 1 proposait un zoom sur François Asselineau et ses affiches qui inondent les murs et les ponts. C'est fou, Asselineau, c'est le seul candidat qui a plus d'affiches de lui que d'électeurs.
Bien vous, bien vu.
Bien vous, bien vu.
Merci Nikos.
Je vous en prie.
Allez, la Syrie Ascoval va-t-elle fermer? Le repreneur qui devait la faire tourner a été placé en liquidation judiciaire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a promis de tout mettre en œuvre pour sauver ce site. On l'accueille tout de suite. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Aliaga,
bonjour.
Et bonjour à tous vos aimables subalternes. Oui, je suis, je vous le dis tout de go, déterminé à sauver Ascoval.
Bon.
Je l'ai promis. Déjà, pour aider, j'ai commandé une poutrelle en acier à offrir à ma femme.
Oula.
Ah mais croyez-moi, ça va lui faire une sacrée surprise pour son anniversaire.
Comme vous dites. Vous cherchez vraiment à vendre de l'acier à tout prix, hein, mais est-ce que c'est possible?
Mais écoutez, si on s'y prend bien, si on est offensif, si on donne envie aux clients de bénéficier du savoir-faire français, tout est possible. D'ailleurs, j'ai pensé à quelque chose.
Ah bon?
Chers clients, chers amateurs d'acier, ça vous rappelle des choses, monsieur Cabrol. Une grande vente flash a lieu en ce moment chez Ascoval, au 4e étage du magasin. Ne manquez pas des rabais exceptionnels sur notre collection printemps-été de câbles en acier. N'ayez pas peur de vous faire plaisir et laissez-vous tenter par des palettes de 5000 tonnes de tôle ondulée. Oh là là, je n'ai pas l'habitude. 5000 tôle ondulée. Un objet déco original qui sublimera votre jardin ou votre salon. Découvrez notre large choix de poutres glamour féminines au design élégant. De 4 à 19 tonnes, vous avez le choix à poser, pourquoi pas, dans votre chambre à coucher pour un esprit loft et vintage.
Oui.
L'acier Ascoval, c'est l'acier le plus beau. Il n'y a pas de débat.
Bah, espérons que ça marche. C'est pas gagné. Autre chose, deux employés des magasins Cora ont été licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche afin de passer du temps en famille avec leurs enfants.
Écoutez, c'est légitime. Il est normal de vouloir passer un dimanche avec ses enfants. C'est humain. Mais pour l'économie, ce n'est pas très bon pour l'économie. Mais on peut, je le dis, réfléchir à un compromis. Et je promets, sur votre antenne, d'étudier avec tout le gouvernement la légalisation du travail des enfants de 8 ans.
Oh non, mais il manquerait plus que ça. Non, mais... Merci Bruno
c'est
Le Maire. Bientôt quand même. Hier avait lieu un nouveau grand débat des élections européennes sur BFM TV, cette fois, avec un Benoît Hamon très offensif. Benoît Hamon, bonjour.
Bonjour Mme Julie.
Alors, à propos de ces élections, vous avez déclaré « Je tirerai les leçons d'un deuxième échec majeur au suffrage universel ».
Voilà, c'est vrai. Vous l'avez dit. Si par malheur, par un extraordinaire hasard, disons-le, par un séisme politique. Bref, si je n'arrivais pas en tête des élections européennes, oui, j'en tirerais toutes les conséquences.
Séisme politique, ouais, vous êtes crédité de 2,5% dans les sondages.
De 2,5
réaction.
Mais c'est attendez, l'élection c'est quand c'est
Bah, c'est dimanche là, c'est après-demain, hein, voilà. Je le signale.
Ouais. Donc oui, quand même. Oui, donc il me reste deux jours pour multiplier mon score par 10. 2,5 fois 10, 25, voilà. Ah, parce qu'à 25%, vous savez, je gagne.
Ouais, souvenez-vous, vous avez fait 6% à la présidentielle. En deux ans, vous avez divisé votre score par deux. Alors soyez lucide, hein. C'est mort, hein. C'est irrattrapable.
Bon, mais alors, écoutez, j'en tire toutes les conséquences.
En arrêtant la politique?
Ah ben non, vous êtes malade ou quoi? Non, 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 en me présentant au présidentiel de 2022. Parce que personne ne va vouloir de moi dans la société civile avec un score de merde comme ça. Non, 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 non. Faut que je reste en politique, je sais faire que ça, de toute façon. Là, c'est le seul endroit où j'ai une chance de survivre.
Eh ben bon courage, merci Benoît Hamon. Le procès Balkany se poursuit cette fois. Ce n'est plus seulement la fraude fiscale qui est en jeu, mais aussi le blanchiment d'argent, la corruption, l'origine des fonds, les montages opaques qui entourent les fameuses propriétés des Balkany.
Oui, bon ben, ça va, ça va.
Ok, hein, et puis quoi encore, allez-y, continuez, madame, je dis gargarisez-vous, hein, j'ai quoi, j'ai trafiqué de la drogue, j'ai volé des autoradios, j'ai empoisonné monsieur Cabrol avec de la Volvic, c'est ça? Non mais attendez, faut quand même pas pousser mémé dans les orties.
La Volvic, il ne devait pas connaître Laurent.
Vous y mettez aussi.
Bon, en tout cas, il y a même des questions à se poser. Hein. La semaine dernière, vous affirmiez ne pas être propriétaire de votre villa de Marrakech. Et cette semaine, c'est votre fils, Alexandre Balkany, qui est cité, car il aurait servi d'écran.
Non, mais c'est... Une fois de plus, ce n'est pas nous. Nous ne sommes, Madame Julie, de grâce, nous ne sommes pas propriétaires de ce riad. Je l'ai dit au président de la cour, le dis, je le redis sur les vos antennes, nous ne sommes propriétaires non plus de cet enfant.
Ah, votre fils n'est pas votre fils.
Ah ben si, écoutez, franchement, s'il est assez con pour se faire gauler par la justice aussi jeune, c'est que je ne dois pas être le père, ça c'est sûr.
En tout cas, la justice compte saisir tous vos biens immobiliers, et si elle établit que vous avez blanchi de l'argent, vous allez nier, là, cette fois-ci ?
Bon, bah, écoutez, je vais mettre en ligne avec mon avocat, hein, voilà, attendez, Maître Dupont-Retty est avec moi, voilà, c'est Madame Julie et Monsieur Aliagas.
Oui ?
Madame Julie, Monsieur Aliagas.
Bonjour, Maître.
Mon client, Patrick Balkany, n'a jamais, je dis bien jamais, été corrompu.
Ah, voyez !
Ces maisons dont on parle, ces bicoques, ont été achetés par des gens qui n'ont reçu aucune consigne, aucune instruction de la part de mon client, Patrick Balkany. Il ne les a pas payés. Ce sont des gens sulfureux, des crapules, des voyous.
Et oh,
qui ont...
attends, maître, attention, vous parlez de mes amis là, hein. Vous parlez même de ma famille, soyez polis tout de même.
Oh putain, mais c'est pas vrai. Non,
tu veux pas la boucler, hein? Et aller jouer sur une autoroute, ok?
Non mais, Madame Julie, pardon. Vous n'auriez pas un tueur d'enfants que je puisse aller défendre? Parce que ça me changerait les idées un petit peu. Et honnêtement, ça me détendrait. Des clients comme ça, je n'en peux plus.
Allez, bon courage, maître, bon courage. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, c'est comme ça qu'on dit, oui, Khelaïfi, a été mis en examen pour corruption. Il est soupçonné d'avoir voulu acheter les mondiaux d'athlétisme 2017.
Ah, écoutez, ça me fait bien plaisir, tiens.
Bonjour Jean-Claude Godin.
Bonjour.
Alors, en tant que Marseillais, évidemment, un Parisien qui a des ennuis, ça vous réjouit.
Mais pas du tout, Madame Gélevi, vous vous trompez. Non, non, je suis ravi de voir que Monsieur Al-Khelaïfi adopte les traditions marseillaises, celles qui sont portées depuis des décennies par le frère Scarpelli ou les cousins Ambrosini. Monsieur Al-Khelaïfi, franchement, quittez le PSG, venez prendre la présidence de l'OM, on va bien s'entendre.
Ah ben voilà. Merci Monsieur Godin. La Cour d'appel de Paris a donc ordonné la reprise des traitements de Vincent Lambert. On va demander son avis à un médecin. Philippe Douste-Blazy, bonjour.
En effet, bonjour. Déshabillez-vous, je prends tout de suite.
Ah non, mais si, non, ça ira. C'est pas pour moi. Hein. Je voulais juste savoir s'il fallait laisser vivre quelqu'un qui est dans un état de conscience minimal.
Écoutez, pour ma part, oui, en effet, je le pense. Il faut.
Alors, vous dites ça pour des raisons religieuses, éthiques, des catholiques, je sais pas.
Non, non, pas catholiques, cathodiques. Cathodiques, cathodiques. En effet, vous savez, j'aime bien regarder les anges de la télé-réalité sur NRJ 12.
Oula.
Et là-bas, tous les candidats sont dans un état mental encore pire que Vincent Lambert. Kelly et Nabila sont quasiment en état de mort cérébrale. J'ai étudié leur encéphalogramme, électroencéphalogramme. C'est quasiment le même que celui d'une coquille Saint-Jacques.
Mon Dieu. Et alors ?
Eh bien, ça ne les empêche pas de vivre comme ça, comme tout un chacun. En string avec des tatouages moches, mais ils vivent quand même. Alors, laissez tranquille les personnes en état de conscience minimale, franchement.
Merci.
C'était Nicolas Canteloup pour bien finir hein, ce vendredi avant de le retrouver lundi avec un hommage aux auteurs Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche et bien sûr notre Julie nationale pour la revue de presse. Qu'à lundi, camarades. Dans 8 minutes, très exactement, Wendy Bouchard prend le relais avec son émission Le Tour de la Question. 2 heures de thème.
Absolument. Bonjour, chers amis. C'est la fête internationale des marchés, le concours aussi de votre plus beau marché sur TF1. Et je vous demande si vous avez un faible pour ces lieux de proximité où on sent le pouls de la population à 2 jours des élections.
Oui.
Hein. Allez-vous faire vos courses au marché? Je reçois Jean-Luc Petit-Renaud, Perico Légas, Jean-Pierre Pernaud, que des gens qui aiment le terroir et qui sont là pour vous en parler. Et puis, trop d'Europe ou pas assez dans notre vie quotidienne? On verra justement comment Bruxelles s'invite dans notre quotidien. Pouvoir d'achat, alimentation, consommation, c'est l'Europe de la réalité. Au jour le jour, avec nos invités.
A tout de suite, à 9h précisément avec vous, ma chère Wendy Bouchard. À suivre l'essentiel de ce qui s'est passé ce matin dans la matinale. Et puis, un point météo avec Laurent Cabrol avant le week-end. A tout de suite.
Il est 8h55 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabronikos.
Racontez-nous tout, et cher ami.
Petit rappel, elles tiennent leurs promesses, les pluies que nous avons annoncées et que nous annonçons depuis ce matin et que nous avons annoncées depuis plusieurs jours, elles tiennent leurs promesses, elles sont là, donc le Béarn, le Midi-Pyrénées, la vallée de la Garonne sont sous la pluie et puis ces pluies vont gagnent en ce moment l'Aveyron, le Lot, le Limousin et ensuite l'Orléanais, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes. Ce soir, ces régions seront touchées aussi, de sorte que la perturbation a vraiment envahi presque toute la France. Sur la Manche, des éclaircies. Poitou-Charentes, j'y crois pas trop, mais enfin si, il y en aura. Mm-hmm. Et sur la région parisienne, ce sera pas mal avec des averses ce soir. En Méditerranée, ce serait mitigé. Température 17 à Toulouse, ça baisse bien. On a perdu 10 degrés à Toulouse. 18 à Bayonne, 19 à Nice, 20 à Bordeaux, 21 à Rennes. Mais agréable, Lille, Nantes, Marseille, Clermont-Ferrand, Verdun, 22-23, 24 Paris-Nevers, 25 Strasbourg, 26 Lyon et 28 Avignon. Voilà, et puis j'en ai parlé du congé de fin de semaine, là, ça sera, dans l'ensemble, pas trop désagréable, surtout dimanche.
Merci infiniment, Laurent Cabrol, à tout à l'heure sur Europe 1.
Nous sommes le vendredi 24 mai, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. D'abord, la dernière ligne droite avant les élections européennes de dimanche. Les partis n'ont plus que quelques heures pour mobiliser, pour convaincre jusqu'à la dernière seconde. La campagne prend fin ce soir à minuit. Alors que disent les derniers sondages à deux jours du scrutin? Les détails avec Emmanuel Duteil, chef du service France d'Europe 1.
La dynamique est en ce moment derrière le RN. Mais attention, on parle de 1 à 2 points d'écart. On est donc dans la marge d'erreur. Il y a surtout deux très grosses inconnues. La participation qui s'annonce faible et ce que l'on appelle le vote utile. Mmh. Autrement dit, je ne vote pas pour le parti de mon cœur, mais pour celui qui pourra soit faire barrage ou peser. Du côté d'En Marche, on espère en profiter, ce qui rend quand même encore très incertain le résultat de dimanche soir.
Et n'oubliez pas de voter. Voter, ça n'est pas seulement quelque chose que l'on fait de façon optionnelle. C'est l'expression de notre liberté dans notre démocratie. Le procès France Télécom, un premier face-à-face, a eu lieu hier entre les victimes et les prévenus. Les témoins ont raconté à la barre leur descente aux enfers ou celle de leurs proches, comme cette veuve. Écoutez son témoignage très fort. C'était dans le journal de 8h.
C'est une victime invisible parce que je crois que dans son cas, comme dans beaucoup d'autres, la fragilisation de tous ses personnels, elle s'est faite de manière silencieuse, sans faire beaucoup de bruit, jusqu'à ce que tout ça éclate avec les suicides de 2007 et 2008. Michel, c'est quelqu'un en qui tout le monde avait une grande confiance et je pense que parmi tous nos amis, tout notre entourage familial, jamais personne n'aurait pu imaginer ce geste, jamais.
Un témoignage fort. Coup d'envoi de Roland-Garros dimanche. Les plus grands tennismen du monde se donnent rendez-vous à la Porte d'Auteuil à Paris. La star, c'est Roger Federer, 37 ans. Il sera encore de la partie. Et lui aussi sera là dimanche sur la terre battue. Richard Gasquet, le Français, revient après 6 mois d'absence. Écoutez son admiration pour la légende Federer. Il était mon invité à 7h45.
Federer, tout le monde le sait, techniquement c'est le meilleur. C'est le plus grand tennisman de l'histoire, un des plus grands sportifs. C'est sûr que c'est très très dur d'être à cet âge-là aussi fort, donc non, c'est quelque chose d'incroyable. Donc même si aujourd'hui les joueurs jouent de plus en plus vieux, lui ça reste une exception et c'est en tout cas un champion incroyable, donc c'est sûr que c'est bien.
Ouais, il est à part en fait.
Oui, bah oui, ça, y a aucun doute par rapport à ça, personne ne peut se comparer à lui.
Et puis la dernière journée de Ligue 1 ce soir, 4 clubs sont à la lutte pour rester dans l'élite. On vous donne rendez-vous dès 20h sur Europe 1 pour suivre cette soirée de folie multiplex en direct avec notre confrère Lionel Rosso. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de votre confiance. Un grand bravo aux équipes techniques et éditoriales d'Europe 1. Bravo à la rédac, toujours sur le pont. Demain, c'est Bernard Poirette qui prend le relais, qui vous réveille dès 6h. Et quant à moi, je vous retrouve. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 6h55 pour le passage de relais. Céline Dacosta avec Eva Roch et Mathieu Noël.
À lundi, Nicolas.
Bonne journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Julie, je vous laisse avec Wendy Bouchard pour le tour de la question. Ça commence dans quelques secondes.
Et on fait le tour des marchés. Merci, Nico. C'est vos appels. Beau témoignage au 39-21.